Le Rendez-vous Tech n'est pas financé par des sociétés ou des annonceurs, mais par ses auditeurs. Aujourd'hui, nous remercions Noémie Nihoul, Garopixel.fr, Pascal Minéry, Zark, Jérôme Feutelet, Julien Vinel, 5RZU, Ketchup Moutarde et Greg Barth. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, épisode 200. Bon sang, déjà 200 épisodes. Évidemment, on allait faire un petit truc un petit peu spécial pour ce 200e épisode. Mais avant ça, la présentation d'émission, je suis Patrick Béja et dans le Rendez-vous Tech, on vous parle de toute l'actu tech, internet et gadgets toutes les deux semaines avec des invités de qualité. Et aujourd'hui, donc, pour fêter ce 200e épisode, on revient aux sources avec Jeff, qui est là régulièrement quand même. Comment ça va, Jeff ?
200. Ouais, super. Super excité d'être là. Merci de m'avoir sorti du placard. Enfin, non, pas franchement du placard, parce que ça fait quand même un petit mois que j'étais ici. Mais en tout cas, très, très heureux de retrouver mon collègue estimé, ami de nos débuts.
C'est vrai. Yann Allais. Et là aussi, comment ça va, Yann? Bienvenue. Le retour à la maison, au Bercail.
Écoute, ça me fait vachement plaisir d'être là. J'aurais préféré être en meilleure forme. Là, je me suis réveillé ce matin avec 42 fièvres, mais je pouvais pas manquer ça.
Je me disais que t'avais l'air un petit peu déprimé. Je me suis dit, zut, ça le déprime de venir dans l'émission. Non, c'est juste que t'es malade comme un chien.
Non, du tout. Je suis malade comme un chien, mais je suis complètement drogué, là, donc je devrais au moins tenir une heure et demie.
C'est bien, ça va nous faire une émission distrayante, alors.
On va dire ça.
Shooté comme tu l'es, je suis sûr que tu vas nous faire des prédictions à peu près aussi exactes que celles que tu nous faisais à l'époque.
Tu seras surpris. J'ai réécouté d'anciens épisodes là pour remarquer le coup des 200 et j'ai déterré quelques perles rares.
C'est vrai.
En termes de prédictions.
Bon, écoute. Ouais, tu verras. Et ben justement, on a un épisode qui va être une première partie normale et une deuxième partie avec un petit coup de nostalgie. Vous allez voir, on vous a préparé déjà les résultats du sondage qu'on a fait depuis deux semaines. Il y a quelques résultats intéressants, quelques trucs marrants. Et puis, on a demandé aux auditeurs de nous dire quels étaient leurs moments marquants dans l'émission. On a quelques petits passages audio, effectivement, qui et pour donner le ton, tiens, d'ailleurs, je vais essayer de vous en faire écouter un. Alors, tout de suite, je vais faire ça. 3, 2, 1. J'ai l'impression d'être le seul à le penser, mais je suis d'accord avec moi-même, c'est l'essentiel. Voilà, vous l'avez entendu, je suis d'accord avec moi-même, c'est l'essentiel, c'est la chose importante dans l'émission.
C'est tellement toi.
Un grand merci à Kazo, David.
Mais c'est dans profond, mais c'est profond parce mais que oui. C'est vrai à la fin.
C'est ça, au final.
Si tu n'es pas d'accord avec toi-même existentiellement,
c'est que ça devient compliqué.
Où vas-tu?
On se rend compte que les fondations de l'émission sont saines. Mais vous allez voir, on a quelques autres extraits qui devraient être rigolos aussi en fin d'émission. Là, c'est un petit teasing. Mais on va avoir un épisode finalement avec beaucoup de news intéressantes, avec notamment le fait que Windows 10 arrive sur ARM dans pas trop longtemps. On a l'explosion en vol de Pebble, qui était le plus gros Kickstarter de l'histoire à son époque. On aura peut-être quelques remarques intéressantes de Jeff sur l'écosystème des startups en général. On a plusieurs news du même type. On verra ce qu'il peut en dire depuis la Silicon Valley en bon investisseur qu'il est. Et puis, plein de petites news comme d'habitude. Avant ça, je voudrais juste préciser un petit truc. Je sais pas si vous avez remarqué, chers auditeurs, mais les logos des émissions ont changé. On a eu un gros travail avec Jérôme on a repensé entièrement l'identité graphique des émissions, les logos des émissions et amené une cohérence aux différentes émissions que je produis. Alors c'était sympa, on a eu des réactions des auditeurs, certains aiment bien, certains ont des remarques à faire. Dans l'ensemble, je pense que c'est pas mal, mais en tout cas ça laisse pas froid. J'espère que ça vous plaira aussi. Vous pouvez aller découvrir ça petit à petit dans les semaines à venir, ils vont s'installer dans toutes les émissions. Donc et on en parlera peut-être dans le prochain épisode avec Jérôme, on va voir ce qu'on va faire, on aura un épisode de Noël un petit peu particulier, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour le moment, on ne manque pas à la tradition, hein, comme toujours, le rendez-vous tech. On couvre l'actu tech du moment. Et je ne pouvais pas rêver meilleur co-animateur que Jeff et Yann, mes camarades du début, déjà il y a 7 ans de ça, quand on s'est lancé, pour couvrir
Putain,
tout ça.
Putain, 7 ans.
Ouais, non mais vous vous rendez compte hein, quand même. Bon, on va avoir la séquence nostalgie, vous inquiétez pas, on va y venir. Avant ça, un sujet qui aurait pu être dans les premiers épisodes, on parle de Windows, bon sang. Voilà, de la vraie tech, des trucs bien costauds. Windows et son arrivée sur les processeurs ARM, annoncée par Terry Myerson. Alors, Windows 10, pour ceux qui ne le savent pas, ne tourne pas sur les processeurs ARM. C'est quoi les processeurs ARM? C'est les processeurs qu'on va trouver dans les appareils mobiles, c'est-à-dire les téléphones, les tablettes les plus mobiles. Windows 10, le vrai Windows 10, a besoin de processeurs Intel. Alors, il y a une version de Windows 10 qui tourne sur processeurs ARM, mais c'est Windows 10 mobile qui, soyons honnêtes, n'a pas connu un succès absolument fulgurant. Et qu'est-ce que ça veut dire que Windows 10 arrive sur ARM dans les mois à venir? Ça veut dire qu'il va pouvoir y avoir des mobiles qui vont faire tourner le vrai Windows 10 complet avec toutes vos applications Windows 10 classique, que si votre société a une application Windows 10 d'il y a 10 ans, enfin Windows d'il y a 10 ans qui ne marche pas sur mobile, et ben là, ça pourra fonctionner. On a eu pas mal de personnes qui nous l'ont signalé sur le Reddit, cette news, hein, bien sûr, elle a enflammé les foules, comme des vignerons, NotMika, etc., nous ont mis des petits liens sur ce sujet. Et, alors, déjà, première réaction peut-être de Yann, hein, on va donner la priorité au monsieur qui revient. Windows 10 sur mobile, sur ARM, est-ce que c'est important? Est-ce que ça change quelque chose pour toi, pour le monde?
Écoute, pour moi, je trouve que ça montre la persévérance de Microsoft sur le sujet, parce que je crois que c'est pas la première fois qu'ils tentent le coup de mettre Windows sur un processeur ARM. Ils avaient déjà tenté le coup avec Windows RT, mais le problème qu'ils avaient eu à l'époque, c'est que ben, comme c'est un processeur ARM, donc il faut que toutes les applications soient pensées, développées et programmées pour être compatibles sur un processeur ARM. Et forcément, ben, tous les third parties n'ont pas embarqué. Donc bien évidemment, il y avait la suite Office qui était compatible, mais ça restait des produits Microsoft. Si tu voulais jouer à World of Warcraft sur Windows RT, c'était pas possible, si ce n'est si, à moins que Blizzard ait fait le port. Et puis c'était la même problématique pour tout l'écosystème en fait.
Ben c'est ça, la Windows RT, ici, c'était pas le vrai Windows quoi.
Ouais, ben c'était un peu ce qu'ils font là. La seule différence, et c'est une grosse différence, c'est que cette fois-ci, Windows 10, je sais plus comment ils l'ont appelé là, c'est cet update, la
Creators Update. Edition. Creators ouais, voilà, Update, Creator ouais, qui arrive en début d'année prochaine.
Voilà, la seule différence, c'est qu'ils ont mis un émulateur x86 dedans. Et ça fait toute la différence. Ça fait que si jamais on installe une application tierce qui n'a pas été touchée par le concepteur, l'émulateur va embarquer et vous permettre de réutiliser votre application comme si vous étiez sur un Windows 10 natif. Donc ça, c'est énorme. Ça permet donc de bénéficier de l'autonomie, la très bonne autonomie qu'on a sur des processeurs ARM, et aussi de bénéficier de l'écosystème qu'on a sur un Windows 10 classique. Ouais. Donc, c'est un move. Maintenant, il faut voir s'ils arrivent à transformer l'essai. On sait tous que rouler sur un émulateur, c'est pas forcément aussi rapide que du natif. Donc, je suis curieux. Et puis, je salue l'initiative de Microsoft là, de retenter le coup. Ils ont fait beaucoup avec Surface qui perce bien. Donc, peut-être pour la prochaine itération, ils vont nous sortir un truc encore plus impressionnant. Je regarde, j'observe.
Bah, c'est vrai que les processeurs Intel sur lesquels fonctionne Windows classique, Windows 10 en général, en fait Intel a abandonné l'idée de faire des processeurs vraiment bons en consommation d'énergie. Donc on ne peut se reporter que sur ARM, et puis surtout les processeurs ARM aujourd'hui sont peut-être suffisamment puissants pour faire tourner des vraies applications. On sait que les mobiles ont presque la puissance d'un gros ordinateur classique. Alors Jeff, j'imagine que faire tourner Excel sur ton petit téléphone Windows 10, c'est pas forcément le but, mais en version continuum, c'est-à-dire brancher un téléphone sur un clavier externe et un écran externe, là pour le coup, ça devient envisageable, non ?
Ouais, enfin, je pense que tu vois effectivement des gens qui se disent que quand ils voyagent, étant donné la puissance maintenant des téléphones, avoir un téléphone avec un clavier, éventuellement un écran, ça résout une partie des besoins. Personnellement, je reste fidèle à mon MacBook Pro 13 pouces et donc j'ai jamais regardé. Mais c'est même pas une question de Mac, c'est le form factor. J'ai arrêté d'utiliser les iPads. Le format me convient. Et donc, je pense que c'est utile de voir ce portage. Je suis pas sûr que la première chose à laquelle je pense, c'est faire tourner Excel sur mon téléphone.
Bah, le truc, c'est que on voit et on voit dans les semaines, les épisodes qui ont précédé, à quel point le secteur des professionnels est le secteur de croissance de l'informatique encore aujourd'hui, qui est en recul par rapport au mobile ces derniers mois, ces dernières années. Là, on peut avoir des applications, effectivement, ce dont on parlait déjà avec la présentation de Continuum, donc la possibilité de brancher des machins sur son téléphone pour avoir un vrai ordinateur, entre guillemets, sur le téléphone. Le problème, c'est que Windows 10 Mobile, personne développait pour Windows 10 Mobile, et là, même plus besoin de développer pour. Les applications de Windows sont déjà présentes, donc peut-être que ce fantasme d'avoir uniquement le mobile comme ordinateur principal pourrait être réalisé. Mais alors, comme tu le disais, Yann, c'est vraiment une persévérance de bulldog de Microsoft qu'on leur connaît, hein. Si ça marche pas du premier coup, ni du deuxième, ni du cinquième, eh ben ça marchera au dixième. Et donc là, c'est encore un nouvel essai pour essayer de réaliser ce fantasme de la machine unique mobile, quoi. Mais est-ce que ça marchera? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est un grand pas dans cette direction.
Ouais, absolument.
Ouais. Enchaînons avec la grosse nouvelle de Pebble qui a été racheté par Fitbit, qui pose beaucoup de questions sur plein de choses différentes. Et d'emblée, je vais demander à Jeff si tu peux vraiment commenter ce genre de choses, parce que tu étais investisseur dans Fitbit à l'origine. C'était l'une des boîtes dans lesquelles tu as investi à son début. Est-ce que tu es encore impliqué dans le truc? Est-ce que tu peux commenter, ou est-ce que c'est...
Je peux commenter au sens où je n'ai strictement... Depuis que Fitbit est passé sur les marchés publics, donc en juin 2015, j'ai arrêté toute implication dans la boîte. Donc j'ai appris la nouvelle comme toi, d'abord la rumeur du rachat des assets de Pebble, c'est-à-dire que Fitbit n'a pas racheté Pebble en tant que compagnie. D'après ce que j'ai compris, ils ont racheté des brevets, ils ont embauché une partie des équipes et ils ont repris une partie de la technologie. C'est-à-dire que la Pebble, la montre, elle, Fitbit n'y a pas touché. Et les gens qui avaient acheté sur Kickstarter la nouvelle génération des Pebble vont, d'après ce que j'ai compris, se faire...
Ils ne vont pas les recevoir. Ils se font rembourser par l'intermédiaire de Kickstarter. Il y avait un gros point d'interrogation à ce niveau-là. Kickstarter et sans doute Pebble ont confirmé qu'ils seraient remboursés. Mais par contre, il n'y a plus vraiment de suivi. La marque
suivi,
Pebble disparaît.
Il n'y a plus de support. Et puis, Pebble va disparaître. C'est-à-dire que c'est une boîte qui s'est lancée en 2012. C'était donc avant... Le développement que l'on connaît maintenant du marché de la montre intelligente. Le truc, c'est que c'est quand même compliqué pour une start-up d'essayer de développer du hardware, du software, d'avoir la communauté de développeurs qu'ils ont réussi à créer était assez remarquable. Mais bon, on sait que c'est pas évident. Ils avaient pas levé énormément d'argent, et donc ça fait maintenant je dirais une paire d'années que l'on sait que c'est difficile pour Pebble. Et ce que je ne sais pas, c'est la véracité des rumeurs autour de leur potentiel rachat, c'est-à-dire que dans la presse, voilà, on a entendu, il y a toujours cette notion de « Ah ouais, mais il y avait une offre à soi-disant 740 millions de dollars par Citizen, qui est une marque de montres traditionnelles, et puis après Intel, soi-disant, aurait offert de racheter la boîte pour 70 millions. Mais personne ne sait vraiment si c'est vrai. »
Fitbit a racheté pour 40 millions, c'est ça?
Ouais,
c'est ce qu'on pense.
Honnêtement, ouais, c'est ce qu'on pense, et très honnêtement, je sais même pas si tu veux, étant donné ce qui a été racheté, Je sais même pas s'ils ont dépensé plus de quelques millions de dollars.
Ah oui, à ce point-là. Mais c'est terrible parce que bon, c'est vrai que c'est des rumeurs, les histoires de centaines de millions rachetés par Citizen, etc. Mais quel, enfin, je sais pas très bien comment le voir parce que Pebble en son temps était effectivement le plus gros Kickstarter de l'histoire. C'était un succès énorme, une communauté hyper active, mais une communauté de Kickstarter, c'est-à-dire les gens qui voulaient que le produit existe et qui espéraient que à partir de ce démarrage, il puisse se développer au-delà du public de Kickstarter. Pebble visiblement n'a pas réussi à aller assez au-delà, mais est-ce que ça veut dire que c'est un échec pour Pebble? Est-ce que c'est un échec pour la formule de Kickstarter? Est-ce que, je sais pas comment, c'est un petit peu l'espoir, que... quoi, Pebble.
Je pense que c'est important, justement, c'est un des points que j'avais noté, c'est que c'est une autre démonstration que quand on fait un don sur Kickstarter, c'est vraiment ça, c'est vraiment un don. C'est pas une promesse, c'est pas un engagement, un contrat que vous signez avec la personne qui lance son Kickstarter, c'est un don. Vous espérez que ça va marcher, mais il n'y a aucune obligation de concrétisation du produit. C'est ce qui est arrivé avec Oculus quand ils se font racheter par Facebook. Tout le monde était outré. Oh mon Dieu, c'est pas pour ça que
les gens
signé,
étaient outrés parce qu'ils voulaient. Ouais, parce que c'était pas pour ça qu'ils avaient signé et qu'ils se disaient mais ils ont racheté pour X milliards. Moi, je voudrais ma part. Ou c'était. Il y avait quelques personnes qui réagissaient comme ça, mais.
Mais oui, mais au final, quand tu fais le don, t'as droit à rien. C'est juste.
T'as la contrepartie et puis voilà. Et puis aider la compagnie à se lancer, quoi.
Donc, je comprends qu'on soit déçu, qu'on croyait dans le produit, etc. Mais au final, c'est le jeu, mais pas plus ça. C'est déjà arrivé, ça arrivera encore. Donc, c'est un peu triste, mais je suis pas surpris que ça se soit arrivé. C'est dommage, par exemple, pour la garantie qu'il n'existe plus. On te dit globalement que si tu as un problème avec ton Pebble, tu vas aller sur le forum Pebble ou tenter ta chance sur Google. C'est dommage que la garantie s'arrête de façon aussi brutale. Mais voilà, quoi.
Mais alors,
je veux dire la façon de le voir, c'est que, enfin, pour répondre à ta question, Patrick, c'est quel est l'échec ici? L'échec, c'est celui de Pebble. C'est-à-dire que Kickstarter, c'est une plateforme qui permet donc aux technologies de se faire financer et d'avoir des promesses d'achat, d'accord? Et donc, Kickstarter n'est pas impliqué dans l'aspect livraison des éléments qui ont été promis. Et ce qui s'est passé, c'est que Pebble effectivement a réussi à avoir beaucoup de succès dans ses préventes, mais n'a pas réussi à construire une marque, n'a pas réussi à construire une distribution qui lui a permis de survivre. Et donc l'échec, c'est celui de Pebble. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de se lancer, de se développer et d'atteindre des centaines, voire des centaines de millions et des milliards de dollars de ventes. C'est ce qu'a fait Fitbit, et c'est pas pour autant qu'ils ont du succès en tant que compagnie dans les marchés publics, puisque la stock encore aujourd'hui a atteint son plus bas niveau. Donc c'est très difficile, et pourtant c'est une boîte qui va faire 2,5 milliards, 2,6 milliards de ventes cette année. Donc malheureusement Pebble a développé des produits innovants, ça c'est clair. Ils ont réussi à développer une communauté qui était très riche, et c'est une des choses que Fitbit a priori semble intéresser. Mais ils n'ont pas réussi à créer une boîte viable, ce qui fait que la boîte, en gros, je ne sais pas s'ils vont faire une banqueroute de manière à plier bailliage, ou s'ils vont pouvoir le faire proprement. Mais en gros. Une fois que les Kickstarter ont été remboursés et que les différentes factures ont été payées, en gros, la boîte n'existe plus, quoi.
Ouais, donc en fait, c'est un succès du Kickstarter dans ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire lancer une petite start-up par des moyens différents de ceux qu'on a d'habitude d'investisseurs, mais au-delà de ça, il y a des start-up qui se cassent la gueule tout le temps, il y a même des start-up qui commencent bien. Donc pour toi, finalement, Jeff, en tant que investisseur dans cet univers de la Silicon Valley, c'est parce que le truc, la manière dont on voit ça, on se dit « Ah, mais c'est tellement dommage, c'était l'enfant chéri de Kickstarter, celui qui aurait pu réussir, et il s'est planté, c'est une tragédie. » Peut-être que vous voyez ça différemment, c'est genre « Bah oui, ils ont essayé, ils se sont plantés, c'est pas la fin du monde, et malheureusement, ça arrive, quoi. »
Oui, et c'est la façon, c'est la réalité que l'on a en tant qu'investisseur, c'est que tu vas investir à un certain stade de développement d'une boîte en espérant que la boîte va avoir du succès, et que tu vas réussir à gérer des le développement,
enfin, réussir à faire grossir, à faire croître la boîte, quoi.
Faire grossir la boîte, etc. Et puis à un moment quelque chose de bien se passera, c'est-à-dire tu vendras la boîte ou tu la mettras sur le marché public, mais le pourcentage de gens qui ont, de boîtes qui ont du succès et qui te retournent une partie importante de ton fonds, c'est genre 2 ou 3 ou 4 boîtes par fonds. Donc c'est
combien
très, très
qui
peu.
Sont financés, ça veut dire 2 ou 3 ou 4 sur combien?
Bah chez nous, si tu veux, c'est ça va être une quarantaine de boîtes financées et 4 ou 5 boîtes qui vont retourner tellement d'argent que tu te préoccupes pas vraiment de la performance des autres boîtes, quoi, tu vois.
Donc
et
dans votre logique à vous,
Fitbit, ouais, c'était le cas pour nous. Fitbit a retourné le fonds qui a investi dans Fitbit plusieurs fois, et donc c'est le cas
c'est une opération gagnante,
Home Run. Quoi. C'est l'opération gagnante, oui.
Donc effectivement, pour Pebble, bon, c'est pas exactement le même contexte puisque c'était l'histoire du Kickstarter, mais vous, dans vos fonds, généralement, vous avez 9 boîtes sur 10 qui finalement se plantent. Le pari ne réussit pas. Donc, vu comme ça, effectivement, malheureusement, Pebble a presque réussi, enfin en tout cas, a réussi à générer un certain enthousiasme sur ses consommateurs, son cœur de consommateurs, mais ils n'ont pas forcément réussi à aller suffisamment au-delà pour faire grossir la boîte à un niveau où elle serait viable sur le long terme. C'est voilà. Intéressant parce que on se rend compte en fait à quel point c'est difficile avec exemple précis avec Kickstarter, on a été tellement impliqué dans le développement de cette boîte, on était tous à l'encourager dans les brancards, non pas dans les brancards, dans les comment ça s'appelle,
starting block,
nous on est les gens qui sommes dans les gradins. Merci, voilà, mais c'est pas vrai, j'ai mon cerveau marche pas dans les gradins, je sens que pour le numéro 300 il va y avoir des gens qui vont m'envoyer cet extrait.
Dis-toi bien qu'au numéro 1, t'étais plus jeune et t'étais plus frais qu'aujourd'hui.
C'est ça, voilà. Le cerveau marchait mieux.
Pour revenir là-dessus, c'est la vie des entrepreneurs, c'est la vie des VC. Et ce qui est toujours difficile, c'est que tu vas avoir des entreprises qui vont décoller, qui vont très bien marcher, et où tu te dis ça va vraiment. En gros, j'ai une boîte gagnante, et puis peut-être 2 ans ou 3 ans plus tard, la boîte fait faillite, quoi. Parce que c'est sur du très long terme et c'est très difficile de savoir ou de prédire comment ça va se passer. Et c'est pour ça que dans nos fonds, tu vas avoir des tonnes de boîtes qui, à un moment, marchaient très fort et étaient les favorites du marché. Et puis quelques années plus tard, elles ont complètement disparu, elles ont fait faillite et elles ont perdu des centaines de millions de dollars pour les investisseurs.
Bah justement, à ce propos, alors on espère que l'esprit et peut-être même les montres de Pebble vivront dans la marque Fitbit, peut-être qu'ils serviront de ces technologies pour sortir leurs propres montres connectées, hein, peut-être, on verra. Mais dans l'esprit de, il y a des boîtes qui marchent bien et puis qui finalement marchent plus très bien. On a GoPro qui est en train de licencier plus de 200 personnes, qui réduit sa force de travail de 15% et qui ferme certains de ses départements, qui a des coûts de restructuration de 33 millions de dollars, etc. Donc GoPro, peut-être qui a besoin de faire le ménage un petit peu. C'est vrai qu'ils avaient beaucoup grossi très vite. Magic Leap, la boîte dont certains d'entre vous se souviendront, on en parle depuis 1 ou 2 ans, comme le truc révolutionnaire qui va vous projeter de l'image de réalité augmentée dans les yeux avec des trucs bizarres et dont personne ne savait exactement ce qu'il faisait, mais dont tous les investisseurs de la Silicon Valley mettaient de l'argent, enfin les investisseurs, il y avait Google, machin, tout le monde mettait de l'argent dedans, ils avaient genre je sais plus combien de milliards, 1,5 milliard je crois d'investissement.
1,5 milliard, ouais.
Donc c'était complètement fou et personne n'avait jamais rien vu. Et ben maintenant on entend dire que finalement le produit serait pas exactement ce qu'on a vu sur les vidéos, que les vidéos c'était un truc fait par Weta, les studios de d'images de synthèse. Alors ça sur ce coup je crois qu'on était à peu près tous d'accord, tout le monde disait bah, c'est du pipeau ce truc. Et en fait le problème serait que ils ont la technologie qui fonctionne, mais pour générer ces images et ce projecteur qui projette les trucs dans les yeux, donc qui réduit la taille de l'appareil qu'on porte normalement, eh ben ils ont besoin d'un truc de la taille d'un frigo. Ils n'ont pas réussi à le réduire assez pour le mettre sur ta tête déjà. Non, enfin, ils se disent à terme ça fera à peu près la taille d'un casque de réalité virtuelle normale, donc ça sert à rien. Bon, on ne sait pas, tout ça c'est des rumeurs, mais visiblement c'est pas pour tout de suite le projet tel qu'il était décrit dans les fantasmes fiévreux des technophiles que nous aurions pu être. Cyanogen est en train de fermer ses portes aussi, Viadeo placé en redressement judiciaire, bon là je le dis parce que c'est une société française. On a eu un rapport selon lequel la scène tech européenne serait en train d'atteindre les 13,6 milliards de financement en 2016, on était à 12,6 milliards en 2015, on parle en dollars en l'occurrence, et c'est 5 fois plus qu'en 2011, ce qui est pas mal, mais le gros problème visiblement pour la scène européenne, c'est le manque de financement au deuxième ou troisième stade qui font que les sociétés n'arrivent pas à continuer à croître peut-être au-delà de ces premiers stades comme on les a vus avec Pebble ou d'autres. Je me demandais si tu avais un commentaire, Jeff, encore une fois avec ta position spécifique, d'une part sur les volumes, sur les sommes, et puis sur l'analyse que on a de l'argent pour commencer un petit peu, mais après il faut encore de l'argent pour alimenter la croissance de ces petites boîtes. Est-ce que c'est l'analyse que tu fais ou est-ce que c'est je ne sais pas ce que tu en penses de cette estimation?
Donc pour mettre les choses en comparaison, je crois que en 2016 on sortira à peu près 50 milliards de dollars en funding ici aux États-Unis, donc c'est pas beaucoup plus que l'Europe, c'est juste 4 fois plus.
C'est surprenant quand même, j'aurais pensé que ça serait plus que 4 fois plus, c'est pas...
Alors, faut que je j'ai peut-être pas forcément mes chiffres juste, donc si ça se trouve, il est possible que ce soit, tu vois, c'est 4 fois ou peut-être 5 fois, faut que je regarde, en gros, j'essaie de voir.
Mais c'est pas 15 fois, mais 20
c'est pas,
fois...
C'est pas 15 fois plus, ouais. Ça reste... je vais essayer de voir... Et donc, effectivement, ça s'est énormément développé en Europe sur les 5 dernières années. Donc ça, c'est super positif. Le fait de dire, bon, le problème, c'est que on sait pas financer les boîtes au-delà de l'amorçage. Je pense que c'est vrai, mais c'est pas le truc qui m'inquiète le plus parce que les investisseurs US, les gens qui vont investir donc dans les tours de financement de type growth, comment ça
donc de croissance.
Merci. Au niveau croissance, n'ont pas de problème à investir en Europe dans les boîtes qui se sont développées, qui se sont prouvées. Donc aujourd'hui, pour moi, ce que j'ai vu, donc puisque je reste en contact avec mes collègues européens, même si j'investis pas moi en Europe, c'est que il y avait un problème au niveau amorçage et ça a été relativement bien géré par l'arrivée de plein de fonds similaires à Softech, mais dans les différents pays européens. Après, tu vas avoir un certain nombre de fonds qui vont leur donner donc le premier gros tour de financement de type capital risqueur. Tu vas avoir des acteurs locaux dans les différents pays, tu vas avoir quelques acteurs pan-européens tels que Index Ventures, tels que Accel Europe, tels que Atomico. Et puis après, tu vois, c'est à ce moment-là, donc pour tout ce qui est ce qu'on appelle le Series B ou le Series C, qui sont des tours plus gros et qui sont des tours de, qui sont faits vraiment pour gérer la croissance des boîtes. C'est là où typiquement l'Europe a du mal, puisque il n'y a pas énormément de fonds de plusieurs milliards comme on va trouver très très souvent en aux États-Unis. Mais des acteurs comme Inside Venture Partners ou IVP qui gèrent plusieurs milliards de dollars dans leur fonds de capital risque vont investir en Europe sans trop de problèmes. Donc je pense que c'est si aujourd'hui il y a des limitations, ça reste un dans la capacité des boîtes à trouver donc le tour qui va être entre le tour que je fais localement dans mon pays ou en Europe et le tour qui va être géré par les investisseurs US, donc un série B. Mais je pense que comparé à la situation d'il y a 4-5 ans ou 5-6 ans, les choses se sont très largement améliorées.
D'accord. Donc il y a de l'espoir. On va dans la bonne direction, quoi. C'est bien.
Yeah. Tu vois, juste pour répondre à la question, KPMG a publié des chiffres. En Q3, donc il y avait eu 15 milliards de funding aux États-Unis et il y avait eu 2,3 en Europe. Donc tu vois, c'est un ratio de en gros 1 à 5 qui n'est
juste
pas
pour un trimestre. Pas, hein, ouais.
Pour un trimestre. Et donc, si, en gros, tu multiplies, parce que les chiffres sont plus ou moins constants. Donc, tu vas te retrouver, en gros, avec un ratio de 1 pour 4 ou 5, ce qui n'est pas ridicule, étant donné que le marché US est quand même extrêmement développé, quoi.
Pas mal. Très bien, très bien. Bon, bah, écoutez, il y a de quoi sourire, alors, dans tout ça. Espérons qu'on verra un petit peu plus de jeunes pousses grossir en Europe. Ça a l'air de prendre cette direction, en tout cas. Donc on conclut sur cette petite partie sur les startups et la mésaventure malheureuse de Pebble. Un petit commentaire que je voulais lire par rapport à l'épisode précédent où on parlait dans le contexte de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, du fait qu'il semblait peut-être envisageable mais compliqué de ramener de la manufacture informatique aux États-Unis. On disait en fait que l'un des problèmes était le coût de la main d'œuvre. Et Joshua 16-18 sur dans les notes, enfin dans les commentaires de l'émission, a fait une remarque qui m'a fait réfléchir un petit peu. Il disait, je lis, j'ai bondi sur mon siège quand j'ai entendu dire que rapatrier des productions de matériel tech était irréaliste pour des raisons de coût de main d'œuvre, comme si la consommation dépendait de l'exploitation de populations aux acquis sociaux dérisoires. On croirait entendre les arguments des esclavagistes à la veille de l'abolition de l'esclavage. Attendez un instant, il continue. Forcément que si on fait travailler des ricains plutôt que des nouaches, je cite hein, verbatim, ça va se répercuter sur le prix final du produit. Mais il existe des moyens d'y faire face. Faire marcher la planche à billets pour donner plus d'argent à la population, ok. Ou mettre en place une meilleure répartition des richesses, ok. Richesses qui n'ont d'ailleurs jamais été aussi centralisées qu'aujourd'hui. Là, on est encore un petit peu dans la politique, mais on continue à avancer peut-être un petit peu plus dans le philosophique. Là, c'est moi qui commente, mais il dit « De plus, je pense qu'une réduction de la consommation au profit d'une politique responsable du point de vue social et écologique. Les klaxons de la Silicon Valley nous font entendre leur réaction. Donc, du point de vue social et écologique, ne serait pas néfaste. Globalement, plutôt que changer de téléphone tous les 1 ou 2 ans, on pourrait payer plus cher le matériel, mais le changer moins régulièrement. Ça ralentirait la progression de l'humanité, certes, mais il devient urgent de faire de l'écologie et du social, sinon on ne survivra pas. Comme on dit, celui qui croit à une croissance permanente est soit fou, soit économiste. » Alors, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que moi, je prends toujours comme une sorte d'acquis que, bah oui, donc on produit au moins cher et on consomme les trucs et on va aller chercher les trucs moins chers. Mais en fait, il a pas tort. Ça veut pas forcément dire, c'est impossible à faire, mais peut-être qu'un truc fabriqué aux États-Unis, fabriqué en France, pourquoi pas en Europe, on pourrait envisager de le payer un peu plus cher. Alors, ça va vouloir dire quoi, un peu plus cher? 100 €, 200 € de plus, ça va pas être non plus tout à coup le double du prix. Et puis, le changer, au lieu de le changer tous les 2 ans, eh ben, le changer tous les 3 ans. Donc, je dis pas que ça va se produire, je sais qu'il y a des dynamiques de marché qui font qu'on essaye d'aller vers le moins cher, le machin, mais ce qui m'a intéressé dans ce commentaire, c'est l'idée de se dire, Mais oui, mais il n'y a pas une fatalité dans cette histoire. On peut peut-être s'arrêter une seconde, y réfléchir plutôt que de l'accepter comme une valeur absolue, une vérité absolue, et se dire si jamais on essayait, peut-être que on pourrait ramener effectivement des chaînes de production, des usines, des dans nos pays. Et il y a des gens qui pourraient être intéressés. On sait qu'il y a des effectivement des gens qui n'ont pas de travail et qui pourraient être intéressés par l'idée, oui, d'aller travailler à la chaîne dans une usine Foxconn à la française, avec des conditions spécifiques bien sûr qui feraient que ça ferait augmenter le prix du produit, mais pourquoi pas, ça serait bon pour l'environnement, ça serait bon pour l'économie locale, on achète bien des légumes locaux, peut-être acheter des produits tech locaux. Je dis pas que ça va se produire, mais c'était intéressant ce commentaire de Joshua, parce que il m'a arrêté dans mes idées reçues, quoi. Est-ce que je rêve, je sais pas, Yann, ça te parle ce genre de truc ou pas?
Non, pas du tout.
C'est vrai. Oh là là, mais quel rabat-joie. Moi, je partais.
Non, mais je trouve ça beau ce qu'il dit, mais ça frise quand même le communisme. C'est-à-dire que dans un pays où tu vas avoir énormément de concurrence, où tout est basé vraiment sur la consommation, regardez le dernier produit, regardez comment il est plus performant, les keynotes, les ceci, les cela. Tu veux avoir le meilleur produit et tu veux l'avoir à un prix le plus proche de tes capacités. Donc oui, il y a des gens qui consomment bio, qui sont prêts à payer plus cher, mais pour la tech, je le vois pas en fait.
Mais en fait, moi je dirais peut-être il y a 3 ou 4 ou 5 ans pour la tech, oui, mais aujourd'hui, je regarde les derniers téléphones. Bon, moi je veux bien peut-être garder le mien un an de plus si ça peut aider l'économie locale. Et comme tu le dis, on achète du bio, du machin. Il y a des mouvements d'achats locaux. Bon, c'est encore une fois de l'agriculture, mais moi je suis plus prêt à acheter ma tomate locale que la tomate, même si je la paye, tu vois, 50% plus cher, quoi. Je dis n'importe quoi.
Mais tu vas pas la payer 50% plus cher si elle est fait au 15e arrondissement de Paris. Ça sera pas un facteur x2, ce sera un facteur au moins x6, x7.
Ah, mais je suis pas convaincu. Si tu veux.
Écoute, on verra.
Ouais. Jeff, toi, c'est, bon, j'imagine que dans ton environnement, c'est presque du blasphème de dire on va ralentir la.
C'est pas du blasphème au sens où si tu essaies d'analyser, et une fois de plus, je veux pas faire de la politique sur le rendez-vous tech, même si on l'a fait la dernière fois. Si tu analyses fondamentalement pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec Trump en tant que président, futur président des États-Unis, c'est en gros ce que Joshua expliquait, c'est que à partir du moment où tu vas avoir des millions et des millions d'Américains qui sont complètement à la traîne au niveau économique, qui ont l'impression que l'establishment ne les écoute pas, ne les représente pas, ils vont croire en quelqu'un qui n'a aucune expérience, aucun track record et surtout une propension à tweeter plus vite que son ombre, en se disant il va amener, il va créer des jobs et il va changer ma situation personnelle, parce que quand tu n'arrives pas quand tu n'arrives pas à donner à manger à tes gamins tous les jours, je veux dire, tu penses pas à autre chose, hein. Donc et c'est même pas une question de est-ce que je peux me permettre le dernier téléphone en vogue, etc. C'est des besoins qui sont beaucoup plus basiques que ça. Et donc c'est un souhait qui ne fonctionne pas dans une société de consommation. Comme le disait Yann, de toute façon, on est programmé par le marketing, par la télé, par les pubs, pour vouloir les derniers gadgets, etc., etc. Et en gros, le problème de rapatrier des jobs de type manufacturing aux États-Unis, c'est que toute façon, si on rapatrie ces jobs, ce sera sous forme de robots. C'est-à-dire que si on regarde la façon d'être compétitif, de manière à avoir et aujourd'hui la balance des paiements américaine est très déficitaire. Donc on continue à importer plus qu'on exporte.
Oui, mais alors justement, est-ce que la manière d'être compétitif, ça pourrait pas être de dire, bah nous on fabrique aux États-Unis, ou on fabrique en France, ou on fabrique en Allemagne, on fabrique en Europe. Donc oui, ça coûte 200 € plus cher, mais peut-être que les gens seraient prêts à payer ça et à changer moins souvent. Non, tu crois pas?
Non, ça j'y crois pas. C'est par définition je pense que tu auras des gens qui le feraient peut-être. Ouais.
Ça suffit pour les tomates, ça suffira peut-être pas pour financer
Mais typiquement, quand tu fais ça, Tu fais ça en parallèle d'un système qui va empêcher la libre circulation des biens, et tu vas coller des taxes monstrueuses sur les biens extérieurs qui vont en gros les mettre au même niveau que les biens locaux. Mais tu dis adieu au marché ouvert, quoi.
Oui, c'est sûr que ça devient un peu compliqué de. Bon, je sais pas. Moi, je me demande s'il n'y a pas quelque part un mouvement qui serait possible à faire naître pour motiver ce genre d'achat un petit peu militant, quoi. Mais je sais pas. Peut-être que Joshua et moi on rêve.
Bah, aujourd'hui, si tu veux, les grosses réflexions à terme sur les mouvements de déplacement, sur l'impact donc des marchés globaux, le fait que tu as les robots et l'intelligence artificielle qui vont in fine remplacer des tonnes et des millions d'emplois de base qui sont, que ce soit donc les gens qui conduisent des camions, que ce soit les gens qui travaillent dans les usines, in fine, tu vois, ce matin je voyais la boîte, enfin une voiture Uber passer sous ma fenêtre, et c'était une de ces voitures automatiques où le conducteur ne fait rien. Donc, il est juste assis là, il conduit pas, et puis il intervient si jamais il y a quelque chose. Je veux dire, c'est pas loin cette réalité.
Ça voudrait dire que
une partie du parc Uber n'a pas besoin de chauffeur.
Traduire ça dans ce futur de Uber sans conducteur, ça voudrait dire commander un Uber avec conducteur alors qu'il y a le Uber sans conducteur à côté, juste pour le principe de dire je vais vouloir soutenir tel type d'activité plutôt que tel autre. Effectivement,
par
c'est
exemple,
un petit peu ouais.
Ou dire j'ai pas confiance dans la partie automatique, intelligence artificielle, donc je veux un conducteur. Ouais. Mais in fine, ça pose la problématique du revenu universel, c'est-à-dire où en gros t'es payé que tu fasses quelque chose ou que tu fasses rien, quoi.
Bah tiens, voilà une autre idée intéressante dont on pourrait discuter si c'était le rendez-vous politique. Ça serait hyper intéressant. Moi, j'étais complètement, je trouvais cette idée saugrenue il y a quelques années, et puis à force d'y réfléchir, je me dis peut-être, ça pourrait être intéressant à tester au moins. Mais
je pense pas que ce soit de la politique. Je pense plutôt que c'est l'introduction des machines et de l'intelligence artificielle la magnitude de ce qui va être fait et remplacé par des robots dans les 10 ans qui viennent, je pense que les gens n'ont pas
amène
forcément
cette question,
conscience. Et donc c'est pas franchement politique, c'est plus les changements sociétaux qui sont nécessaires.
Qui sont amenés par la tech, qui va forcément poser cette question de manière plus. Ouais, c'est effectivement. Bon, en tout cas, moi j'avais trouvé le commentaire de Joshua très intéressant. Je suis sûr que certains d'entre vous auront des choses à dire aussi, et je trouvais ça intéressant effectivement dans la relation qu'on a avec la tech et le parallèle entre acheter nos tomates locales et peut-être acheter notre tech locale, si ça veut pas dire qu'on a des téléphones pourris, mais simplement un téléphone tous les 3 ans au lieu de tous les 2 ans ou tous les ans. Bon, mais réflexion un petit peu plus large que ça, on va continuer avec nos news et rumeurs, mais avant ça, j'aimerais tout de même remercier encore des patriotes de nous soutenir depuis très très longtemps maintenant, j'allais dire 200 épisodes, mais pas tout à fait, c'est vrai qu'on s'est lancé en cours de route, on a vécu tellement de choses ensemble, j'ai envie de dire pour le meilleur et pour le pire parfois, peut-être plus pour le meilleur que pour le pire. Mais donc certains d'entre vous choisissent de soutenir cette émission, vous le savez, sur patreon.com, ce qu'on peut faire c'est décider de donner des sous pour soutenir le travail qu'on fait dans cette émission. L'émission est financée par ses auditeurs, c'est un fonctionnement que vous connaissez bien maintenant, qui est assez simple. Vous dites j'accepte de donner un ou deux ou trois ou ce que vous voulez comme dollars par émission produite, et à la fin du mois vous êtes débité, ça prend 5 minutes pour s'inscrire, et vous avez la satisfaction de soutenir une émission locale. Vous voyez comment je... Hein, tout à coup.
Ah, c'est...
Merci Joshua. Et voilà, et de faire pousser vos podcasts organiques en Europe, c'est une initiative qu'il faut forcément soutenir, comme le font Nicom, Emeric, Florian, Teddy Valente, Jérôme Mougin, Olivier Guillet et Dreamy Cage. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent cette émission et qui font que l'émission a continué depuis si longtemps, et on en est à 200 épisodes et on n'est pas prêt de s'arrêter. Je vous le dis, messieurs, dames, si vous aussi vous voulez rejoindre le mouvement, c'est sur patreon.com/rdvtech. Ah oui, entre parenthèses, sur iTunes, on a eu le rendez-vous jeu, pas le rendez-vous tech, mais le rendez-vous jeu qui est déjà dans les classiques du top d'iTunes 2016, les émissions qu'il ne faut pas rater, donc les classiques qui sont déjà tellement appréciés que vous devez les écouter si vous appréciez les jeux vidéo. Il y a en alternance avec le rendez-vous tech, eh bien le rendez-vous jeu toutes les deux semaines. Je pense que c'est une émission à ne pas manquer. C'est iTunes qui le dit un petit peu par la voix de Steve Jobs en quelque sorte. C'est Steve Jobs qui dit vous devez écouter le rendez-vous jeu, ça ne se refuse pas.
Okay. Rien. Aucune honte, vas-y, tu peux y aller. Mais ouais, pourquoi
Écoute,
pas.
Écoute, on a un. Attends, j'ai la news quelque part. Du coup, je vais la ressortir. Visiblement, il y a une polémique à propos de Steve Jobs. La mairie de Paris veut nommer une rue Steve Jobs près de la Halle Fraissinet à Paris. Vous savez, l'incubateur là de ah comment il s'appelle machin, Xavier Niel.
Xavier Niel.
Ouais, et ça fait toute une polémique, non, comment on appelle une rue Steve Jobs dans Paris, machin, truc, c'est... Je sais même pas ce que j'en pense, mais voilà, Steve Jobs, c'est quelqu'un, moi, je trouve de respectable, s'il dit écoutez le rendez-vous jeu, écoutez le rendez-vous jeu. bon, je disais pour le meilleur et pour le pire, on a une série de news, je vais y passer rapidement, mais c'est parfois le pire et parfois le meilleur, il y a des trucs qui font peur et des trucs intéressants. La Chine est en train de débuter un programme pilote qui, je sais pas si vous avez vu cette série, s'appelle Black Mirror, avec un épisode où on note tout le monde et ça met des étoiles, et puis en dessous d'un certain nombre d'étoiles, on n'a pas droit au même service, et on note les gens tout le temps pour tout. Bah là, la Chine est un peu en train de faire ça avec un système qui crée un score de crédit social, c'est-à-dire votre score de bon citoyen en fonction de ce que vous faites. Si vous défendez bien le parti, machin, vous pouvez en gagner. Si vous faites des choses pas morales, et ben vous pouvez en perdre. Et ça peut déterminer votre capacité à obtenir des boulots, des prêts, partir en voyage, etc., etc. Alors c'est un programme pilote pour le moment, mais enfin. Je sais, ça me laisse un peu sans voix, ce truc. C'est carrément, enfin, 1984. Je suis éberlué, mais voilà, c'est la Chine. Bravo. Il y a la Internet Archive, vous savez, l'archive de l'Internet, qui est en train de déplacer ses serveurs au Canada pour se préparer à d'éventuels problèmes que pourrait poser l'administration Trump et sa gestion de la sécurité informatique, ce genre de choses. Et puis on a.
Moi, ça m'a.
Oui, pardon.
Moi, ça m'arrange pas beaucoup, hein, cette histoire de backuper Internet Archive, parce que j'avais un site à une époque dont je suis vraiment pas fier. Et quand j'ai passé mon premier entretien pour un boulot, on m'a dit OK, Yann, vous avez le boulot, mais par contre, quand j'ai tapé votre nom sur Internet, je suis tombé là-dessus et ça va pas du tout, quoi. C'est-à-dire que si jamais les clients voient ça, là, on risque de perdre des contrats. Donc, faut vraiment faire quelque chose.
Ah, sérieux,
donc,
carrément.
J'ai supprimé. Ah ouais, c'était grave. Donc, j'ai supprimé le site, mais à mon grand désespoir, il est sur Internet Archive et j'ai encore vérifié hier, là, il y est toujours. Et donc, le fait qu'ils veulent backuper le truc au Canada, moi, ça fait pas mes affaires.
Toi, en fait,
mais je vous donnerai jamais la
fait, Yann. Mais tu es descendu aux États-Unis pour voter pour Trump, tu t'es dit, ça se trouve, je vais pouvoir envoyer un truc pour. Ah, mais attends, je vais aller chercher sur Internet Archive, Yann Allen.
Bonne chance. Non, tu ne trouveras pas avec. Il faut vraiment l'adresse du site, quoi. En fait.
Ah, d'accord, ok.
Mais plus sérieusement, je trouve que c'est intéressant. Je trouve un peu que c'est presque cute, en fait, parce qu'au final, il y a un fort faisceau de présomption comme quoi la Russie a réussi à intégrer les. À pirater les serveurs américains pour
influencer l'élection, effectivement.
Donc, si jamais tu délocalises la base de données dans un autre pays, ça ne va pas changer grand-chose. Si les gens veulent hacker et puis modifier du data là, comme à la source, ça va être possible. Ce n'est pas le fait de délocaliser.
Non, en fait,
je salue quand même
Non, la raison du truc, c'est pour se protéger légalement de ce que peut faire le gouvernement américain sur les serveurs qui sont sur le sol américain. C'est ça l'idée, tu vois. S'ils sont sous juridiction canadienne, le gouvernement américain a moins de puissance. Ensuite, ils peuvent toujours peut-être hacker, faire des trucs. Mais
c'est ça le truc, en fait. C'est ça.
Oui,
c'est...
mais légalement, c'est pas la même menace, tu vois. Ah. Il y a par exemple Internet Archive justement et l'IFF, l'Electronic Freedom Foundation, IFF. Bon bref, ont réussi à obtenir la déclassification secret défense d'une National Security Letter, donc d'une lettre de qui a un pouvoir légal très fort pour l'utiliser sur les Internet Archive, ce qui serait peut-être pas possible à l'avenir si la législation était différente aux États-Unis. Mais et donc ils ont un petit peu peur de ce genre de choses. Mais Electronic Frontier Foundation, bon sang, comment j'ai pu oublier ça. Donc voilà, ça c'était la partie un petit peu inquiétante, effectivement, avec ces attaques, ces cyberattaques présumées de la Russie sur les élections américaines, où ils auraient hacké le Parti républicain et le Parti démocrate, mais ils n'auraient livré les informations hackées du Parti démocrate sur par billet de WikiLeaks, et uniquement celle du Parti démocrate et pas celle du Parti républicain, parce que ça servait moins leurs intérêts. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement sérieux, assez intéressant et inquiétant.
Mais c'est fou quand même, parce que j'ai un russe au travail et puis je vais le voir, je lui dis est-ce que vous l'avez fait ou pas, tu sais, je lui dis sans contexte, sans rien, et tout, il me regarde. Mais donc quand on en parle et tout, il me dit écoute, moi en tant que russe, j'y crois pas. Je lui dis mais t'es sérieux et tout, je lui dis c'est quand même bizarre qu'on ait leaké juste les trucs d'Hillary mais rien sur Trump, alors qu'il a forcément des cadavres lui aussi dans le placard. Et puis il me dit écoute, il n'y a rien que j'ai pu voir qui confirme ça. On joue toujours le rôle des méchants à Hollywood et compagnie. Donc pour lui, il voit comme une propagande et que c'est un sentiment quand même qui est partagé dans sa famille, etc., etc. Donc c'est fou quand même.
Tu sais, il faudrait faire un épisode spécial sur la Russie. C'est un pays qui est évidemment très intéressant, mais bon, la raison pour laquelle ils auraient publié des informations dommageables pour Hillary Clinton, c'est évidemment parce que, enfin, la logique serait que Trump est plus favorable à la politique de Poutine. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est assez clair que ça serait le cas. Un nationalisme et un isolationnisme beaucoup plus grand, enfin, clair du côté de Trump. Mais la Russie a effectivement des caractéristiques assez différentes de ce qu'on connaît des pays classiques, et ça serait intéressant de se plonger un peu plus là-dedans, mais bon, c'est pas le sujet ici. Peut-être que je ferai un Phileas Club sur le sujet à un moment, ça serait pas mal. Tiens, un truc intéressant de la police anglaise qui a trouvé un moyen hyper malin de déjouer la protection par empreinte digitale sur les iPhones. Est-ce que, si vous n'avez pas regardé l'article, est-ce que vous savez comment ils font ? J'ai trouvé ça super malin.
Moi, je l'ai vu, donc j'étais mort de rire.
Est-ce que
donc,
tu peux avoir une idée ? Jeff ?
Pardon ? Ah,
tu t'es muté. Est-ce que tu as une idée de comment la police anglaise déjoue la protection par empreinte digitale des iPhones ?
Non.
Eh ben écoute, c'est très simple. Ils attendent que la personne se mette à téléphoner, donc que le téléphone soit débloqué. Ils courent derrière et ils l'attrapent. Et comme ça, et après, ils le laissent ouvert. Ils le laissent pas se remettre en veille. C'est malin, non ? J'ai trouvé ça hyper malin. Un moyen très low-tech de déjouer la protection.
Ils te cassent le téléphone, ils te cassent le bras, te mettent par terre.
Écoute, a priori, même pas besoin. À moins tu sais, ils doivent avoir des entraînements spéciaux pour aller attraper le téléphone pour pas qu'ils se cassent la gueule, justement.
Je sais pas, quelqu'un te chope ton téléphone, première action, c'est peut-être de mettre un bourre-pif, non ? Je sais pas.
Oui, mais s'il court assez vite, tu peux pas. Ou alors, tu sais, il y avait régulièrement, maintenant c'est un peu moins le cas, mais il y avait des gens sur des scooters qui, moi ça m'est arrivé, hein. Il y avait des gens sur des scooters qui m'avaient attrapé mon téléphone, malheureusement pour eux, le téléphone, ils étaient pas bien entraînés comme la police anglaise, et ils l'avaient fait tomber. C'était un vieux Nokia à l'époque, la batterie, tu vois, ça se cassait pas à l'époque, hein, la batterie avait sauté, mais je l'avais rebranché, tout marchait bien. Mais ils étaient pas bien entraînés, mais c'est possible. Bon, il y a encore un psychodrame chez les YouTubers avec des questions qui viennent se poser sur la visibilité qu'offre YouTube aux vidéos des gens qui sont abonnés à la chaîne des YouTubers. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre homepage, votre section « Mes vidéos », les vidéos auxquelles je suis abonné, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne voit pas toutes les vidéos qui ont été publiées. Et moi, je pensais que c'était le cas, je m'en rendais pas compte, simplement parce que bah, les vidéos que je voyais pas, je les voyais pas. Donc, je me rendais pas compte qu'il y avait des vidéos qui étaient cachées. Et en fait, il n'y a aucun moyen de voir toute la liste des vidéos qui sont publiées. Il s'est forcément algorithmiquement sélectionné. Et du coup, ce que disent les YouTubers, c'est que ça favorise le clickbait, les images un petit peu attirantes pour faire cliquer un petit peu plus, etc. Et les vidéos un petit peu débiles. Et ils voient depuis quelques mois une chute sensible de leur nombre de vues par vidéo, malgré le fait qu'ils gardent beaucoup d'abonnés. Il y a eu un gros ramdam qui a été fait sur tout ça. Je crois que sur certains points, ils exagèrent un petit peu. Sur d'autres points, je crois qu'effectivement, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait aucun moyen de voir juste la liste de toutes les vidéos. Il faut aller chaîne par chaîne pour voir s'ils ont publié quelque chose. Tu peux pas voir dans toute la liste directement toute la liste de toutes les vidéos qui ont été publiées depuis quelques jours ou machin. Donc ça fait beaucoup de bruit. Je me demande si YouTube va répondre, mais ils ont tendance à pas trop s'intéresser, à pas trop satisfaire leurs plus gros youtubeurs. En fait, ce qui se passe, j'ai l'impression, c'est qu'ils vont chasser encore plus gros. Je sais pas si vous avez vu la campagne, bah non, vous êtes pas en France, mais peut-être qu'il y en a dans vos pays aussi. En France, il y a une campagne avec des youtubeurs qui sont hyper grand public en ce moment. Là où ils se basaient sur les vidéos marrantes, les trucs de jeux vidéo, machin, qui sont populaires, mais réservés à un public relativement niche, je dis bien relativement. Là, ils font de la promotion de vidéos de cuisine, vidéos de maquillage, machin, des trucs qui peuvent toucher beaucoup plus large. J'ai l'impression qu'ils essayent d'aller plus loin, quoi. Donc, je ne sais pas s'ils répondront à ces youtubeurs-là.
Bah, moi, j'ai suivi les vidéos de PewDiePie parce qu'il en parlait.
Et alors, je trouve qu'il a quand même fait un coup.
Bah, je trouve que c'est un coup magistral parce que moi, quand j'entends, je ne suis mais pas
attends,
ces gars-là.
Expliquons.
Je sais que c'est un gars.
Expliquons.
Donc, voilà.
Il a dit qu'il allait effacer sa chaîne qui a, au moment où elle atteignait 50 millions d'abonnés.
Exactement.
Est-ce qu'il l'a fait ou pas? Je n'ai même pas suivi.
En fait, il l'a fait, mais c'est pas sa chaîne principale qu'il a supprimée. Donc, en fait, c'est un bait énorme. Et même moi, je suis tombé dedans. Tu sais, quand j'ai vu le truc, je dis, ah, mais c'est énorme quand même qu'il dit pas. Je connais pas ce mec, mais on en parle tout le temps. Donc, je vais m'abonner. Je me suis abonné à sa chaîne. Je regardais tous les jours pour voir s'il avait supprimé et tout. Puis à la fin, pour dire, tiens, voilà, je l'ai supprimé ma chaîne avec 200 abonnés. Et puis, je t'ai bien eu, quoi, en fait. Donc, je trouvais que c'était une opération géniale. Et ce gars, il est juste trop fort, quoi.
Ouais, ouais, donc, effectivement, voilà. Ouais. Génie du marketing, c'est sûr. Ah, c'est très très fort, effectivement. Bon, ensuite, autre news, on a une possible explication sur la cause de l'explosion des Galaxy Note 7. Il semblerait que ça soit dû à la miniaturisation un petit peu trop excessive, sans test approprié. En fait, il y a un petit élément de du physique du téléphone. C'est pas un problème software, c'est pas un problème dans la batterie elle-même, mais c'est un élément où qui est trop fin et qui, avec le gonflement des batteries normales quand il y a de la chaleur, fait rentrer en contact avec quelque chose d'autre ou fait un trou dans la batterie, et donc ça provoque l'explosion. C'est pas confirmé encore, mais il semblerait que ça soit ça. Et l'explication, c'est dû à effectivement des tests qui ont été faits trop à la va-vite pour ce type de réduction excessive. Ils auraient dû tester mieux, plus longtemps, sur tous ces éléments. Donc, peut-être que ça serait cette raison, l'explosion des Galaxy Note 7. C'est un petit peu rassurant de se dire, au moins, on sait plus ou moins d'où ça va, mais c'est un laboratoire indépendant qui a trouvé cette explication. Donc, il faudra attendre d'avoir la confirmation par Samsung directement. Et entre-temps, Samsung a annoncé qu'ils allaient mettre à jour les téléphones existants qui sont encore dans la nature pour qu'ils ne se chargent plus ou qu'ils se chargent plus qu'à 30% ou etc. pour que enfin tout le monde rende leur téléphone parce qu'il y en a encore dans la nature. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, on a des rumeurs sur le Galaxy S8 qui arriverait l'année prochaine avec un cadre sur le téléphone qui serait quasiment inexistant, avec un écran OLED qui viendrait autour du bord de l'écran et un bouton home virtuel qui serait sous l'écran. Donc en fait, on décrit un petit peu ce que pourrait être l'iPhone 8 selon certaines rumeurs, genre 8 mois plus tard, quoi. Donc encore une fois, peut-être que Samsung va d'une certaine manière voler la vedette technique à Apple avec une innovation technologique qui pourrait être équivaudre à celle d'Apple selon ce qu'on entend dans les rumeurs. Donc bon, Samsung ne perd pas son dynamisme, c'est plutôt une bonne chose, en espérant que celui-là n'explose pas. Je pense qu'ils vont se le taper jusqu'à la fin des temps, ce truc. Hein. C'est terrible, mais
non, mais c'est absolument terrible. Mais ce que je trouve très surprenant, c'est que Samsung a récemment publié une news là, comme quoi 80% de ses utilisateurs maintiennent leur loyauté, quoi, en fait. Donc ils ont dit, écoute, même si ton téléphone m'explose à la figure, c'est pas grave, ton Samsung 8, je l'achète demain. Donc c'est fou quand même. Donc bah, je sais pas. Quand tu parlais de l'enquête qui a été menée, je préfère quand même faire confiance à ces gars-là qui sont indépendants qu'un communiqué de presse de Samsung qui dit « c'est bon les gars, on a trouvé, faites-nous confiance ». Parce qu'il y en a pas mal quand même qui ont explosé et ça va gravement toucher la compagnie. Quoi. Mais je ne m'attendais pas quand même à une loyauté de 95%, ça m'a l'air quand même vachement haut.
Il disait 95%.
95%, c'est fou quand même.
Ouais. Donc, bon, c'est des chiffres publiés par Samsung, hein, donc.
Oui, voilà. On peut...
mais en même comme temps, tu sais. Ouais, je pense que ça serait pas si étonnant non plus l'idée de se dire, bah oui, les gens comprennent que c'est un problème sur un produit et ça veut pas dire que toute la marque est à jeter. C'est plutôt sain, je trouve, comme réaction.
Oui, mais je n'achèterai pas.
Oui. Très bien. Tu utilises quoi comme appareil, toi, Yann, depuis tout le temps qu'on s'est pas parlé? Quelle marque a ta préférence?
C'est marrant parce que j'écoutais le premier épisode du Rendez-vous Tech où je disais « Ah, mais le Palm Pre, c'est vraiment le futur !» Et Jeff était là « Mais tu envoies n'importe quoi, c'est pourri !» Voilà. Bref, j'ai plus le Palm Pre. Là, je tourne depuis à peu près 3 ans là, sur un HTC Android et j'en suis très content. Je ne pense pas partir chez Samsung ou Apple.
D'accord, très bien. Enfin, HTC, très très bien. Alors maintenant, on a parlé un petit peu du pire, du moyen, et maintenant parlons de trucs intéressants et plutôt positifs. Amazon est en train de, enfin positif, on peut toujours trouver des aspects négatifs à tout, mais Amazon est en train de tester Amazon Go, qui est une épicerie à Seattle où les achats ne sont pas payés en caisse, mais simplement analysés par des caméras et des capteurs, et en fait vous utilisez votre compte Amazon pour avoir accès à l'épicerie en entrant, et puis vous attrapez tous les vous attrapez tous les produits que vous voulez acheter, et puis ensuite vous sortez, et grâce à toutes les caméras, les capteurs, etc., eh ben, il sait ce que vous avez acheté et vous êtes simplement débité à la sortie de l'épicerie. Je trouve ça marrant, moi, comme truc. Bon, ensuite, je suis sûr qu'on peut lui trouver des aspects négatifs. Pour le moment, c'est ouvert uniquement aux employés d'Amazon, et puis ça devrait être ouvert au public en 2017. C'est intéressant comme technologie, et puis c'est intéressant de voir qu'Amazon continue à essayer des trucs différents dans ces domaines. Je sais pas si c'est forcément hyper utile, mais enfin personne n'aime faire la queue dans l'épicerie ou dans le supermarché, quoi. Donc ça c'est plutôt sympa, non? C'est cool.
Ouais, bah c'est intéressant parce que c'est Amazon qui le fait, donc on va voir, étant donné leur capacité à introduire des technologies qui sont pas forcément les premiers, enfin qui sont pas les premières à venir, mais ils les rendent franchement sur le grand public. Donc ça va être super intéressant de voir comment ça fonctionne. Ouais.
Ouais, on entend les flics qui sont en train d'arriver. Fais gaffe, Jeff. Hein. Fais attention. On sait qu'aux États-Unis ils rigolent pas. Apple serait en conversation avec c'est ça. Apple serait en conversation avec des studios de cinéma pour possiblement avoir les films sur iTunes 2 semaines seulement après leur sortie dans les cinémas. Alors évidemment, ça c'est pas prêt d'arriver en Europe, hein, avec la la chronologie des médias, mais j'imagine que ça serait pas non plus bon marché, hein, peut-être 40 euros ou ce genre de truc pour un film, je sais pas du tout, hein, mais j'imagine que ça serait pas le prix de la place d'une place de ciné, bien sûr. On en parlait pendant un moment de cette possibilité, peut-être. Les salles de cinéma vont se battre bec et ongles contre une telle un tel partenariat, c'est sûr, si jamais il se trouve que c'est vrai, mais si ça pouvait arriver, je crois que ça pourrait être quand même assez intéressant, quoi.
Ça sera pas seulement. C'est trop cher, en fait. Ça sera trop cher. Ah et donc ils sont en concurrence. Mais écoute.
Moi, je dis, j'ai dit le prix comme ça. Hein. Ça se trouve, ça sera autre chose. Mais oui, 40 euros, c'est ce qu'on disait à l'époque.
T'as entièrement raison quand tu dis que ce sera nécessairement plus cher qu'une place de cinéma. Mmh. Et donc, de facto, ça ne marchera pas, en fait. Parce qu'à partir du moment où le truc est disponible en numérique, ça va être IP, ça va être disponible sur les torrents, etc. Oui, voilà. Donc c'est pour ça que je te dis que je le vois pas arriver. Quand tu vas au cinéma, tu as une expérience particulière, tu as un grand écran, il y a une plus-value à aller au cinéma. Mais quand il s'agit de le regarder chez toi, tu as le choix entre ce truc sur iTunes qui va te coûter la peau des fesses que tu vas regarder une fois ou la version gratuite que tu vas récupérer sur un torrent. Donc il va vraiment falloir qu'ils poussent et qu'ils offrent quelque chose, hein, qu'ils aient une proposition vraiment très convaincante pour que ça puisse marcher. Si c'est juste l'avoir à 40 euros, 60 ou 30, ça, je le vois pas, en fait. Moi, personnellement, je serais pas intéressé. Je préfère l'attente qu'ils sortent Blu-ray ou qu'ils passent à la
Franchement, deux personnes, enfin un couple, plus deux enfants, plus le pop-corn, plus la voiture, plus l'attente, plus machin, ta place de ciné, si t'es en famille, ça te coûte plus de 40 euros, hein, très très vite. Donc, moi je pense qu'il y a une carte à jouer là-dedans. Ensuite, bon, ça prend de l'argent au ciné eux-mêmes, c'est sûr, mais le prix, moi, c'est pas ça qui me fait forcément le plus peur. Hein.
Bon, bah, écoute, on verra.
50 millions de PlayStation 4 vendus dans le monde au 6 décembre. Sony assoit définitivement sa dominance sur cette génération de consoles. Selon les estimations, mon ami Daniel Ahmad d'un cabinet d'analyse de jeux vidéo spécifiquement, moi je disais, est-ce que Microsoft en est à 30 millions ? Il me disait, ouais, tu peux descendre un petit peu. A priori, nos estimations sont un petit peu en dessous de 30 millions d'Xbox One. Donc peut-être le double de PlayStation 4 vendu par rapport au nombre de Xbox One. On sent encore les conséquences dramatiques que peuvent avoir une mauvaise communication. Tout ça peut être retracé, bon, peut-être pas tout, mais en tout cas une bonne partie de cette différence de vente peut être retracée à l'annonce de la Xbox One. Souvenez-vous, ils avaient fait une erreur monumentale dans la présentation de leur nouvelle DRM pour les qui en fait était pas si mauvaise que ça, on pourrait y revenir à un moment, mais c'était clairement, je pense que dans l'histoire de la tech, il y a eu deux énormes catastrophes, peut-être celle-ci et l'explosion de Galaxy Note 7. Ils sont pas loin l'un de l'autre, même si évidemment Samsung est une marque qui a encore plus de portée que les consoles de Microsoft, mais bon, voilà, on en est à ces chiffres-là maintenant. Google a annoncé qu'ils allaient avoir l'intégralité de leurs opérations dans le monde qui tournerait sur des énergies renouvelables en 2017. Et c'est a priori, selon eux, la première, enfin la plus grosse société au monde la société au monde qui achète le plus d'énergie renouvelable grâce à cette direction. Alors évidemment, c'est un calcul évidemment financier pour eux, j'en suis certain, sur le long terme. Mais là encore, on est dans le meilleur, c'est cool. On ne peut qu'être heureux, non ? Ou alors, est-ce que vous allez me trouver une raison de détester cette histoire ?
Non, moi je trouve ça très bien.
Très bien,
okay. Je salue l'initiative.
Bravo. Jeff, tu dis ça parce que c'est Google, c'est ça ?
Non, du tout.
Non, mais sérieux, tu trouves pas que c'est bien ?
Non. Oui, c'est ok, ça ne m'excite pas plus que ça.
Tu détestes okay. Donc la planète ? C'est confirmé.
Non, bien au contraire.
T'as une façon de tirer des conclusions. Mais
écoute, je ne vois pas d'autres explications possibles.
Qui recommande le rendez-vous tech.
Ok, donc je suis super excité parce que j'aime la planète.
Merci. Voilà. C'était pas compliqué. Bon, écoute, peut-être un truc qui va nous rappeler des souvenirs. Dernière news. Et on vous a parlé déjà plusieurs fois de Shadow, une société française qui veut développer l'idée d'un PC qui est hébergé chez eux dans leur serveur. Pendant que des gens se cassent la figure chez moi, je ne sais pas ce qui se passe. Pardon, donc Shadow qui veut héberger des PC chez eux, dans leur serveur, et vous louez ce PC et vous envoyez uniquement la vidéo, comme le faisait à l'époque OnLive.
Here we go again.
Voilà, et encore, on y va, voilà. Et bah écoute, j'ai testé ce PC chez un ami, chez JK, qui a
et
un prototype.
Et t'as trouvé ça extraordinaire.
Mais franchement... incroyable. Alors au niveau technique, hein, au niveau technique, vraiment, j'ai essayé un jeu très rapide qui s'appelle Doom de cette année. Tu bouges ta souris, le temps que ça envoie la commande au PC et que ça revienne, t'as pas le temps de comprendre que déjà ton écran a répondu, quoi. C'est instantané, c'est incroyable. Yann, je suis sûr que tu me crois pas.
Non, écoute, on a déjà débattu de ce sujet tellement souvent. Tout à l'heure, tu parlais des performances de la PlayStation 4 qui vend bien mieux que la Xbox One. Je pense qu'une des raisons principales pour laquelle ça se passe, c'est parce que, tout simplement, les jeux sont mieux sur PS4. Ils sont plus beaux.
Non, mais
ils sont
ça n'a rien à voir avec le...
C'est que les gens sont sensibles à ça, à avoir une meilleure qualité d'image, une meilleure expérience, un meilleur anti-aliasing, etc. Donc, pour cette même raison, je pense que quelqu'un qui est un gamer aguerri, etc., le gars qui a préféré prendre une PS4 qu'une Xbox One, ben, il préférera également avoir une expérience optimale avec une console ou un PC haut de gamme plutôt qu'une expérience streamée avec des textures compressées et avec un lag. La dernière fois, j'ai testé, je ne sais pas.
Mais c'est ça que je te dis, là, il n'y a pas de lag. C'est incroyable, je te jure, j'en revenais pas moi-même.
On est obligé d'avoir un lag,
mais non,
Patrick.
Mais non.
C'est pas un PC quantum. Il y a des limites physiques quand même. À moins que les serveurs, même si les serveurs étaient chez toi, même Street Fighter, tu as un lag quand tu as une PlayStation 4, tu as un lag aujourd'hui de 6 frames. Donc, il est là, le lag, tu vois, tu as un lag sur ton écran, tu as un lag sur la console, tu as un lag sur ton PC. Le lag, tu l'auras toujours. La question, c'est, est-ce que pour l'expérience que tu recherches, soit en tant que joueur lambda ou un joueur qui est plus pro, enfin, pas professionnel, mais plus aguerri, est-ce que tu vas le sentir, ce lag-là? Et quelqu'un comme moi qui passe énormément de temps par rapport à jouer à Street Fighter, c'est quelque chose que je sens quand je joue à un jeu en multijoueur. Quand je rejoins une partie qui est à 50 millisecondes de lag ou à 200 millisecondes, je le sens, ce truc-là. Donc, pour des gens comme moi, pour un public comme moi, c'est important d'avoir un lag le plus petit possible. Et c'est pour ça que je ne le vois pas, surtout que là, ça fait des années qu'on parle de OnLive. Non seulement les textures sont hyper compressées, t'as des artefacts visuels. On n'arrête pas de dire que ça arrive. Ça ne va jamais arriver. J'ai testé le PlayStation Now.
PlayStation Now, justement.
Il y a 6 mois, c'était exécrable. Le truc était injouable. Je ne comprends pas qu'on te fasse payer pour un truc comme ça.
Bon, écoute, tu viendras un jour tester le Shadow quand il sera disponible. Je pense que même toi, tu seras surpris. Si tu viens à Paris un jour, tu viendras faire un tour. Franchement, okay. Franchement, même tu bah, sais
écoute,
moi
je
suis.
Je passe à Paris cet hiver, enfin le Noël prochain. Donc je passerai et je regarderai.
Noël prochain, tu veux dire en 2017?
Ouais, 2017. Ouais.
Ah, bon, ok. Bon, d'ici là, peut-être que la boîte
aura fait faillite. Bah écoute, tu nous
racontes. Ils sont fermés d'ici
quand
là.
Quand on a une canne.
Bon, ok. Eh ben, écoutez, on ne pouvait pas refaire cet épisode de sens sans au moins évoquer l'histoire d'OnLive et du streaming de vidéos au moins une fois. Les anciens s'en souviendront. Et le combat continue. Le combat continue toujours. C'est
non, il est fini le combat.
Non, pas du tout. Ça continue. Tu verras. Eh bien, écoutez, on passe maintenant à la partie nostalgie avec. Comme je le disais, 200 épisodes, tellement d'aventures vécues ensemble, c'était tellement de moments complètement mémorables, d'évolution. Vous savez quoi ? Je vais laisser la parole aux auditeurs qui ont laissé des commentaires sur le blog, sur frenchspin.fr. Quand je leur ai demandé de parler de leurs moments marquants, Tuto, notre ami du Slack, qui est aussi connu sous le nom de Thomas, a dit « J'ai acheté un iPhone dans les tout premiers mois de l'émission, car vous en parliez avec Jeff et Yann. Je ne connaissais pas, mais ça avait l'air fou. Je suis passé pour le geek ultime à ce moment-là, mais tout le monde voulait jouer avec. Twitter est arrivé dans la foulée, même combat. Deux choses qui ont littéralement changé ma vie et que j'ai connues très tôt grâce à l'émission. » Merci Tuto, ça m'a fait plaisir. Surtout en fait, l'exubérance et la joie du geek ultime. Il est passé pour le geek ultime, mais quand même, tout le monde voulait jouer avec. J'ai trouvé ça très, très bien. vous m'interrompez hein, si vous avez des commentaires sur ce que je lis.
Je cherchais des mouchoirs, parce qu'on va pleurer.
Oui, oui, bah oui, ça va être émouvant.
Et donc, à l'époque, c'était un iPhone 3G, un iPhone 3GS.
Oh, mais même pas, attends. Ah si, 2009, ça devait être le 3GS, ouais.
Si, bah j'ai demandé à Monsieur Google quel était l'iPhone qui était effectivement le prominent à l'époque. Et donc, c'était l'iPhone 3GS.
Ouais, 3GS, ouais. Et qui faisait de la 3G et plus rapide. C'était fou. C'était dingue. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça et Twitter, c'était les deux gros trucs. Je me souviens que dans les premiers épisodes, j'expliquais ce que c'était que Twitter. C'est fou quand même.
3GS comme turbo.
Oui, bah oui, S pour speed, c'est ça. Gwil nous dit plusieurs moments m'ont marqué, les étapes perso de la vie de Patrick. Alors oui, il a sorti les violons, hein. Parce qu'au fond, Patrick, on le connaît. Ce mec est d'un professionnalisme infini. J'ai choisi hein, les commentaires quand même. Ce mec est d'un professionnalisme infini, ça avec toujours voit. Une petite pointe de détente. Bienvenue. Néanmoins, parfois, l'homme se confie derrière son micro. Son mariage, son départ de Blizzard pour vivre avec son Patreon, sa vie de globetrotter entre la Scandinavie, Paris et Tokyo et Kyoto, pardon. Ces moments sont marquants, à mon sens, car ils montrent l'évolution de l'homme et son rapport avec l'émission. C'est l'homme par rapport à la nature, vous voyez. Et avec les poditeurs. Je n'ai jamais eu le loisir d'échanger avec Patrick. Pourtant, ses publications coïncident avec mon rythme de vie. Pour exemple, l'annonce de son mariage coïncidait à l'époque où je préparais le mien. Enfin, bref, un moment m'a particulièrement rendu heureux. Il s'agit du moment où Patrick a annoncé qu'il allait se lancer comme podcasteur indépendant, etc., etc. Cet épisode résonnait comme un tournant chez lui, une sorte d'excitation, un projet qui naissait, une grande ambition. Je vous ai dit, il y a les violons. Je me souviens avoir soufflé un waouh à la fin de cet épisode. L'époque No Watch aussi a été passionnante à suivre et elle était à l'époque unique en France et Patrick avait une voix tellement sexy quand il susurrait la phrase « Incredible web shows ». Enfin, ça rappellera des souvenirs à ceux qui écoutent depuis un moment. Enfin, dernier moment qui me vient en tête, ce n'était pas dans le Rendez-vous Tech, mais dans Zapcast. Lors d'une présentation de l'émission, Jérôme nous a sorti une burgerie en bois, le Rendez-vous Tech, avec ses cas. 200 émissions, 8 ans, chapeau l'artiste. Merci de nous avoir accompagnés durant mes trajets, en voiture, en avion, à pied, durant toutes ces années. Et vivement les 8 prochaines, tout à fait. Merci à toi, Gwil, qui lui aussi est dans le Slack des patriotes du Rendez-vous Tech. Ça m'a fait vraiment une petite pointe d'émotion, ces commentaires. Marc Simon qui évoque le célèbre épisode fait dans un aéroport. C'est celui qui revient régulièrement. Pour ceux qui s'en souviennent pas, j'avais à l'époque... je travaillais pour Blizzard, on avait fait un lancement d'une extension de World of Warcraft en Russie, à Moscou, et j'étais allé à Moscou, et ça coïncidait avec le moment d'un épisode, et évidemment, vous le savez, j'allais pas rater un épisode, c'est impossible, il faut que je sois, dans le coma pour pas faire un épisode. Et là, j'avais enregistré l'épisode dans, l'aéroport de Moscou, avant de prendre l'avion, je l'avais enregistré, on entendait derrière les annonces en russe, etc. C'était très drôle. Ça m'avait vraiment fait plaisir de faire cet épisode. François Neveu nous dit « Patrick, tu fais partie de ma vie. » Alors ça me serre le cœur, tout comme Jérôme et Corben. Depuis ton premier podcast, j'ai l'impression de te connaître et j'aime beaucoup suivre ton épopée personnelle comme professionnelle. Tu es un précurseur dans le domaine. Oh là là, merci. Je suis très heureux que tu puisses vivre de tout cela et sans nous balancer du contenu pourri. Bon, là il y a débat sur la qualité du contenu. Pour moi, on ne peut pas parler de Rendez-vous Tech sans parler de ton premier podcast qui m'a permis de te découvrir. Azeroth.fr, c'est les deux trucs qui reviennent tout le temps. Azeroth.fr, No Watch, c'est les deux trucs qui ont marqué les gens, de te lancer dans l'aventure. Depuis, je ne te quitte plus. Depuis, je ne te quitte plus. Oui, je sais, j'en ai peut-être fait un peu beaucoup, mais ce n'est pas une déclaration d'amour. Ah, oh, écoute, il y a un peu d'amour quand c'est même là-dedans, hein. Ça me gêne pas. Ouais. Non, mais moi, c'est une grande fête d'amour pour tout le monde ici. Et il dit donc, ces moments marquants, la découverte de la neutralité du net, le contrôle de ce que nous publions sur Internet, tes débats enflammés avec Yann, tes monologues interminables, mais qu'on aime tant. Il y a eu d'autres personnes qui ont parlé aussi des questions importantes comme la surveillance de masse, la blockchain, enfin tous ces trucs, et ça me fait hyper plaisir parce que quelque chose comme la découverte de la neutralité du net. Oui, on parle d'iPhone, de combat avec Android, de Microsoft et de Google et de Amazon et tout ça. Et c'est toujours intéressant et important, et c'est une partie hyper importante de l'émission, mais il y a aussi des trucs comme la neutralité du net, et il y a des gens qui ne savaient pas vraiment à quel point ces enjeux étaient importants, il y a des gens qui n'étaient pas aussi au courant que ça de la question de l'hygiène informatique, quand on parlait de l'importance des mots de passe, etc., l'épisode qu'on avait fait avec l'ami Genma. Et c'était quelque chose qui était toujours... marquant et qui est hyper important, donc ça me fait plaisir que ça vous marque à vous aussi. J'ai quelques petits extraits encore que je vais essayer de passer avec mon système un petit peu pourri, donc attendez, je vais essayer de faire celui-là qui va faire plaisir à Yann. On est où ? C'est ici. Alors attention, je passe cet extrait de l'épisode 10. Et on verra qui avait raison. C'est un deuxième défi entre Yann et nous, pour le coup, dans lequel Jeff est intégré.
Et, on verra et puis si la chatroom aussi, hein, parce qu'apparemment tout le monde est pour. Enfin, je viens de lancer le son.
Excusez-moi, on parlait en fait de Google Wave. Donc on avait un grand débat sur Google Wave, et donc je remets ce que disait Yann sur le sujet.
Et tout le monde pense également que Google Wave est très prometteur et que ça va sûrement très très bien marcher. Donc apparemment c'est Yann contre le monde entier. On verra bien.
On verra. Tu as tort.
Et donc Yann contre le monde entier. Je crois que sur ce coup, possiblement Google Wave, on pourrait peut-être dire que d'une certaine manière, Yann avait peut-être pas totalement tort.
Ah, c'est la première de mes nombreuses prédictions qui vont s'avérer totalement.
Et tu vois, l'avantage, c'est que toi, tu fais des prédictions, tu passes pour un crétin quelques années plus tard, mais moi, si je fais des prédictions et que je mets du pognon, je le perds. comme quoi, c'est... Tu vois, c'est, y a
non, mieux. Mais hey, quand même, Jeff, tu as un commentaire sur quand Yann disait « Non, ça va pas marcher », toi, tu dis « Tu as tort », quand même, avec une force assez...
Exactement.
Est-ce que tu as une réaction ?
Et je suis content d'avoir très clairement exprimé mon point de vue. C'est la dope.
Bon, au moins tu ne te déboulottes pas, c'est très bien. Je crois que bon, là on peut laisser ce commentaire parler de lui-même. Bon, il y en aura d'autres, peut-être que je les mettrai en fin d'émission, ça va être sympa. Encore une fois, merci beaucoup à Kazo de nous avoir réunis tous ces extraits. Peut-être, vous savez quoi, je vais en passer un dernier. Attention, je vais le passer maintenant, vous allez voir, il est très bien aussi. Ok, bah écoute, ça me fait plaisir que effectivement tu admettes ton erreur, et évidemment moi j'admettrai pas la mienne si un jour j'ai une glace.
Jamais.
Je suis sûr. Bah tu l'as bien dit, hein, y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Moi je ne change pas d'avis, voilà. Pas mal, non ? Eh, on est quand même. Il y a un thème qui est en train de s'installer là dans toutes ces conversations. Hein, qui a raison et qui a tort quand on commence à parler avec l'équipe d'origine. Tout de suite, on revient à ces thèmes-là.
Tu vois, le truc, c'est que quand on a des avis aussi divergents, le rendez-vous tech a toujours raison quelque part, parce qu'il y a quelqu'un qui avait la bonne prédiction.
Mais oui, voilà,
on couvre tous les scénarios, donc c'est parfait.
Bon, et en conclusion, j'aimerais couvrir quelques résultats du sondage, le fameux sondage qu'on a fait courir en cette fin d'année, et des trucs qui devraient intéresser les auditeurs assidus. Je sais pas si Jeff, tu auras encore beaucoup de temps. Je crois que tu vas devoir bientôt nous quitter.
J'ai encore 2 minutes 30.
D'accord. Oula, 2 minutes 30. Fou. Alors, je vais dire...
Non, je t'ai envoyé un texte.
Oui, j'ai vu. C'est pour ça que... Alors, le résultat le plus important... attendez, je vais le retrouver. C'était un résultat essentiel.
C'est que tu as plus de robots que de femmes qui écoutent l'épisode.
Oui, alors il y a ça quand même. Nombre d'hommes, 95%. Nombre de femmes, 3,4%. Des cyborgs ninjas avec des épées et des shurikens, 8,8%. Il y en a quand même beaucoup. Mais des chevaliers Jedi cachés parmi nous pour le moment où les Sith arrivent, il y en a 20% quand même, hein. C'est quand même, on est en bonne compagnie quand même dans le rendez-vous tech. Sinon, l'animal totem de Patrick pour vous. C'est plutôt, il y a des questions sérieuses aussi hein, auxquelles on viendra. Alors, pendant longtemps, l'ornithorynque avait été en position de force, mais finalement, c'est le caribou qui a gagné. Donc, l'animal totem de Patrick, c'est le caribou avec 26,9% des voix contre 25,4% pour l'ornithorynque. Gagnant clairement le caribou sans aucun conteste. Le Pikachu a réuni seulement 18,7% des voix et le pingouin 13,9. Je pensais que le pingouin et le Pikachu feraient un petit peu plus. C'est un petit peu décevant. On va continuer avec d'autres questions. Celle-ci un petit peu plus sérieuse. Parmi les gens qui écoutent, alors il y a eu plus de 1000 réponses. C'est quand même une toute petite partie de l'audience, hein, vraiment. Mais c'est la partie la plus engagée finalement. Presque la moitié, un peu plus de 40% étaient des gens qui participent au soutien de l'émission. Donc, il y avait le public qui a répondu, c'était vraiment les gens les plus actifs parmi l'audience. Mais parmi eux, 95% des gens écoutent le rendez-vous tech. C'était sur toutes les émissions hein, que je faisais le sondage. 95% des gens écoutent le rendez-vous tech. Et 67% des gens écoutent le rendez-vous jeu, suivi de près par Upload. Mais donc, le rendez-vous tech s'impose clairement comme l'émission principale de celle que je produis. Seulement 42% pour Upload. Et quand même, The Phileas Club, 18% des gens écoutent. C'est une émission en anglais dont je suis très fier, sur la politique, justement, et internationale. D'autres choses intéressantes. Est-ce que les gens écoutent tous les épisodes? 77% des gens écoutent tous les épisodes. C'est encore les gens hyper actifs ici. Est-ce que le sondage... Ouais, non, mais quand même, ce niveau d'engagement, c'est important. Hein. Les gens qui écoutent tous les épisodes, je suis surpris. Peut-être que les gens qui écoutent moins répondent pas au sondage, mais... alors, déjà à ce stade, le sondage est 51% des gens répondent meilleur que les débats de l'élection présidentielle. Merci beaucoup, on fait bien notre boulot. alors, je suis... où est-ce que vous écoutez le plus souvent? Dans les transports en commun ou à pied? 27%, 31% des gens écoutent le plus souvent en voiture. Donc c'est vraiment les transports quoi, les podcasts c'est clairement principalement dans les transports. 20% quand ils ont du temps de cerveau disponible, genre pendant qu'ils font du sport, le ménage, la cuisine, etc. Et 11% d'entre vous écoutent au boulot quand même. J'espère que
Les branleurs. Ah ouais.
C'est ah ouais, un petit peu j'avance, ça, c'est j'avance. Un petit peu ça. tu nous dis Jeff quand tu dois partir. Hein. Je sais que tu es presque.
Je vais devoir vous laisser parce que je pense que mon prochain rendez-vous il va bientôt arriver. Donc.
Mais tu le fais attendre, on s'en fout. Non, je déconne.
Non. Donc ce fut un plaisir dans les 7 années et des bananes que l'on a passé ensemble à faire ce rendez-vous tech. C'est un énorme plaisir de retrouver Yann. Ce serait super si de temps en temps il venait nous faire un petit tour, un petit coucou dans nos émissions. Et puis on se dit rendez-vous à l'émission 300.
Ouais.
C'est le moment où tu
te revois dans deux épisodes, mais oui. Quoi?
C'était le moment où tu dis non, en fait c'était dernière, c'est goodbye.
Ouais, 200 épisodes terminés. Non, attends, c'est comme ça que je suis payé maintenant. Moi, j'ai besoin de bouffer.
Ouais. Merci à toi de supporter Patrick.
Oui, merci à vous.
Ce choix entrepreneurial qu'il a fait il y a quelques années, où comme je l'avais dit, j'étais extrêmement fier de lui parce que c'est pas évident. C'est en gros, on regarde un précipice et on se dit il y aura bien quelque chose par terre au moment où j'arrive en bas. Hein.
Merci Jeff, ça fait plaisir d'avoir des petites remarques positives comme ça de ta part. Tu sais que il y a des gens dont l'opinion compte et tu fais partie de ces gens-là pour moi. Donc merci.
Allez, je vous fais la bise à tous les deux et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Noël. On se retrouve d'ici un petit mois.
Ciao, Jeff.
Ciao.
On continue avec les questions et les réponses intéressantes. La manière dont les gens écoutent les épisodes, écoutez, je pensais pas que c'était autant, mais l'app podcast d'Apple représente 30% des auditeurs. Je savais que les gens écoutaient sur leur smartphone, bien sûr, mais 30% des auditeurs écoutent avec directement l'app podcast, qui est donc, enfin, ça montre l'importance d'avoir une app qui est déjà intégrée à votre système pour écouter des podcasts, quoi. Moi, j'aurais été convaincu.
Je crois d'ailleurs que moi, j'écoute sur Podcast Addict, et je crois que le gars qui développe cette application, qui a eu, je crois, le plus gros suffrage dans le sondage, c'est un auditeur du Rendez-vous Tech.
Oui, tout à fait.
Ça fait plaisir. Et je suis toujours avec mon Podcast Addict. J'ai tous mes podcasts dessus. Et puis, effectivement, quand je suis en voiture, c'est là que j'écoute le plus gros de mes podcasts.
Bah, c'est ça. Podcast Addict, je savais que ça représentait une grosse partie des auditeurs. C'est 27% sur Android. C'est l'application Android principale. J'en suis certain. Et Podcast Addict, une app d'immense qualité. Et effectivement, c'est un auditeur et un petit gars super sympa. Bon, 30% ensuite qui écoutent avec une autre app sur leur smartphone, 10% sur l'ordinateur quand même. Comment est-ce que les gens ont découvert leur émission ? Là encore, prédominance d'Apple avec, bon, c'est pas la plus grosse réponse, mais la plus grosse, c'est je m'en souviens plus. Donc, mais 23% sur le catalogue iTunes, comme souvent, hein, on le sait, le catalogue iTunes a une grosse importance, et 23% aussi des gens qui ont entendu parler de l'émission dans un autre podcast. Donc, là encore, c'est l'un des moyens de découvrir les émissions. Après, c'est un petit peu plus partagé. Comme je disais, il y a 45% des gens qui ont répondu à ce sondage qui sont déjà patriotes, et 42% d'auditeurs qui disent, qui répondent non, mais j'y pense de temps en temps, peut-être que je serai patriote un jour. Et là, j'ai envie de vous dire, les gars, mais si vous y pensez de temps en temps, pourquoi pas faire de ce jour aujourd'hui? C'est l'épisode 200, c'est presque Noël, tout ça, c'est le moment de faire un beau geste, je dirais, non?
Tout dans la finesse.
Non, mais c'est intéressant, tu vois, qu'il y a des gens qui y pensent, qui se disent, ouais, peut-être, et je me dis qu'on a quand même, quand il y a des gens qui disent, ah, les podcasts, financement, peut-être, peut-être pas, dans les gens qui répondent ici, hein, c'est pas encore tout le monde, mais il y a autant de gens presque qui sont déjà des soutiens que de gens qui se disent ouais c'est possible. Donc il y a du potentiel quoi, de croissance. De. Ensuite il faut les convaincre. Alors comment les convaincre? Je sais pas si cet épisode les convaincra, mais
je crois que tu t'es beaucoup fait complimenter sur ta voix, donc peut-être. Proposer pour les membres premium là un enregistrement spécial dans leur messagerie. Salut, non, c'est fait... Patrick. Tu réponds Patrick, pareil, c'est pas grave, ça marche quand même.
Ouais, c'est ça, peut-être. Non, un enregistrement spécial du même épisode que je réenregistrerai avec ma voix suave. Bonjour oui. Les patriotes. Aujourd'hui, nous allons parler de Samsung et de ses téléphones qui explosent. Pas mal, non? Je pense qu'il y a un truc à faire. 5% des gens qui disent non, je ne suis vraiment pas intéressé. Bon, encore une fois, parmi les gens hyperactifs qui répondent ici, c'est les auditeurs les plus actifs. Il y en a peu qui sont pas du tout intéressés, mais quand même, 5%, c'est moins que j'aurais pensé de gens qui sont pas du tout intéressés. Parmi les gens qui sont pas soutiens, qui sont pas patriotes, 34% des gens disent qu'ils ne peuvent pas se le permettre, et ça me fait à la limite assez plaisir parce que je me dis que ce modèle d'affaires hyper sain fait que les gens qui peuvent se le permettre et qui veulent faire cette démarche active permettent aux gens qui peut-être ne peuvent pas se le permettre, qui ont des salaires plus modestes, de profiter quand même de l'émission. Donc je me dis que c'est quand même un modèle qui, s'il continue à fonctionner, et je l'espère, a que des bons côtés, quoi. Des gens qui disent, 14% qui disent, en fait, j'ai jamais vraiment réfléchi. S'ils sont pas patriotes, ils se disent, bah, j'y ai jamais pensé. Donc ça veut dire peut-être que j'en fais pas assez dans les émissions. Voilà, c'est corrigé cet épisode. Et 28% des gens qui disent, je veux le faire, mais j'ai jamais pris le temps. Et là, encore une fois, je dirais, mais prenez le temps, c'est aujourd'hui, moi, par exemple, voilà.
Mais tu sais, le pire, c'est que moi, je fais partie de ces gens-là, en fin de compte. À chaque fois, je me dis, mais il faut vraiment que je m'abonne au Patreon de Patrick. Et en fait, à chaque fois, je me dis, demain, je reporte. Donc, cette fois-ci, je m'engage personnellement à reconsidérer la question.
Écoute, moi, j'ai un slogan pour ma campagne politique, c'est « Demain, c'est aujourd'hui ». Donc voilà, Yann, tu n'as plus le choix. Parmi les gens qui sont soutiens, la plus grosse partie, bon, on a trois parties à peu près équivalentes. Un tiers qui dit, on a les médias qu'on mérite, mon soutien est un peu militant. chose que j'apprécie. Tout travail mérite salaire, là encore 25%, tout travail mérite salaire, et l'émission est un gros boulot. Je vous remercie à vous tous de reconnaître le fait que c'est un gros boulot, c'est pas juste faire l'idiot devant le micro, même si ça représente une grosse partie de ce boulot. Et encore un tiers qui dit « L'émission est vraiment cool, je serais déçu si elle disparaissait. » Ah bah ça me fait plaisir aussi, tout ça c'est que du bonheur. Il y a aussi la question d'un Patreon spécifique au rendez-vous jeu, c'est une question autour de laquelle je tourne régulièrement. Mais au final, si je propose cette chose-là, il y a beaucoup de gens qui disent « je suis pas intéressé parce que je soutiens déjà le rendez-vous tech » et ça compte pour d'autres émissions aussi. Je sais qu'il y en a qui font ça, un quart des gens disent ça. C'est cohérent, un quart des gens disent « bah j'écoute pas vraiment le rendez-vous jeu ». Il y avait 75% des gens qui l'écoutaient, donc ça correspond. Il y a quand même... 10% de gens qui disent que ça les intéresse, 10% qui disent qu'ils soutiendraient en plus de leur abonnement au rendez-vous tech, 13% qui disent que ça les intéresserait mais qui réduiraient leur abonnement au rendez-vous tech ou qu'ils l'annuleraient, et puis quelques pourcents qui disent qu'ils soutiendraient et qui sont pas encore soutiens du rendez-vous tech. Donc je sais qu'il y a des gens qui se posent la question souvent, là selon les chiffres, les statistiques, ça semblerait indiquer que ça me convainc pas encore de lancer un Patreon spécifique, même s'il y a des gens qui me le demandent hein, vraiment régulièrement, donc j'hésite toujours, voilà. Quel âge avez-vous ? Essentiellement 43% entre 25 et 34 ans et 41% entre 35 et 49 ans. Public plutôt, on va dire entre plus de 24 ans généralement. Il y a très très peu de gens qui ont moins de 18 ans. Et quand même un petit 10% de entre 18 et 24 ans. C'est moi, j'en suis pas forcément attristé parce que je pense que c'est une émission qui est un petit peu, même si on déconne, c'est une émission qui est relativement sérieuse. C'est un truc qu'il faut faire la démarche de l'écouter. Et donc c'est des esprits déjà formés et qui savent ce qu'ils veulent principalement, qui vont venir écouter l'émission. Donc moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Quoi d'autre ? On a passé l'animal totem hein, de Patrick. Dans l'équipement tech que les gens ont, seulement, entre guillemets, 77% de gens ont un PC Windows et 42% des gens ont un Mac. Donc, surreprésentation de la population Apple par rapport à la population normale, où on devrait être à quoi ? 10% de part de marché d'Apple ?
Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais.
Donc 42%, c'est intéressant à noter. Hein. On est à 42 Mac, 77 PC. 50% iPhone, là encore énorme surreprésentation de la population iPhone. Android 60%, donc on n'est pas à égalité mais presque, c'est là encore assez intéressant. 10% de Windows Phone, ça j'aurais pas cru, hein. 10% de Windows Phone quand même. Autre téléphone, 2,5%, mais alors vous avez quoi? Peut-être des BlackBerry qui traînent, des choses comme ça, ou comme Yann, un Palm Pre dont il ne peut pas se séparer.
Je sais même plus où il est.
Et l'autre réponse qui m'a vraiment surpris, c'est que 22% des auditeurs ont des objets de domotique. Et ça, vraiment, je pensais pas qu'on serait à 22%. Et du coup, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de faire un épisode où on parlerait de domotique. Et j'ai recruté Cédric Bonnet, qui lui est à fond sur ce genre de choses, pour le prochain épisode de Noël. On va faire un épisode préenregistré sur la domotique, justement, présentation, introduction. Et on va aussi parler avec Jérôme des nouveaux logos que j'évoquais tout à l'heure. J'espère que ça vous intéressera, mais je me dis 22%, ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient être intéressés, mais qui connaissent pas suffisamment, donc on va faire une petite conversation là-dessus. Ensuite, on parle de jeux vidéo. Je vais peut-être passer la chose. Il y a une grosse partie des gens qui sont fans de jeux vidéo, mais avec l'audience du rendez-vous de jeu, c'est pas si surprenant que ça. Et voilà. Et puis après, il y a des questions comme si vous pouviez évoquer les émissions, décrire ce que vous évoquent les émissions en un mot. On a beaucoup de plaisir, passion, qualité, détente. Alors là, détente, c'est magnifique, non ? Indispensable, merci, sérieux, fun, cool, information, professionnalisme, que des mots instructifs, bonheur, des gens qui disent bonheur. Franchement, je vais juste passer une seconde à dire ça. Vous rendez compte, enfin, le plaisir que ça me fait de me dire que certaines personnes qui écoutent cette émission, quand on leur dit à quoi ça vous fait penser à du bonheur, mais c'est une récompense incroyable pour moi. Franchement, je suis, ça m'a amené aux anges ce sondage.
Non, mais c'est super important puisque souvent dans les commentaires, je parle pas du rendez-vous tech en particulier, mais quand tu produis quelque chose de gratuit, quoi, c'est plutôt la majorité qui sont là à se plaindre, etc. Enfin, une minorité plutôt qui est là à se plaindre. Et puis, t'as un retour un peu mitigé. Tu te dis, oh, je travaille quand même beaucoup pour ça, là. Puis quand t'as un commentaire comme ça qui dit bonheur, passion, etc., ça fait toujours plaisir. Ça rebooste toujours pour pouvoir faire des de meilleure qualité. Donc, continuez à envoyer ces mots-là parce que ça fait très plaisir.
Ouais.
Je suis sûr que ça fuel Patrick.
Complètement, complètement. Moi, ça me donne de l'énergie pour continuer. Et, c'est vraiment important ce genre de choses. Et j'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure. Je disais la communauté des podcasts en général et du Rendez-vous Tech en particulier, c'est une communauté qui est exceptionnelle, quoi. Et je dis pas ça pour vraiment. Ouais. On a tellement de négativité sur Internet et dans cette communauté, entre nous, avec moi, avec vous, mais vraiment aussi dans la communauté. Franchement, on a quasiment que du positif, quoi. C'est du plaisir tout le temps et c'est précieux sur Internet et j'en suis enfin je remercie mes bonnes étoiles et mes bons nœuds de réseau à chaque épisode parce que c'est un vrai plaisir, quoi. Donc voilà pour ce sondage qu'on a fait cette année. On en refera un l'année prochaine si vous n'avez pas pu participer. Vous aurez d'autres occasions. C'est la fin de cet épisode 200 que j'ai été hyper, hyper heureux de pouvoir partager avec Yann et avec Jeff, avec l'équipe des tout débuts d'il y a presque quoi 8 ans maintenant. Avant de se quitter, comme d'habitude, Yann, toi qui es, t'es au Canada, est-ce qu'on peut retrouver autre que tes sites honteux sur la Wayback Machine du Internet Archive?
Jamais, jamais. Non, vous pouvez me trouver quelqu'un de très respectable sur Twitter à Yann Allé, YAZALET. C'est essentiellement là que vous allez me retrouver quand je vais partager mes posts ridicules que je trouve sur Reddit ou Imgur. Là, ça me fait marrer, donc des fois, je les partage.
Très bien, merci beaucoup à toi Yann d'avoir été avec nous. On rappelle que Jeff lui est @ Jeff sur Twitter également. Et puis moi je suis Note Patrick sur Twitter, Note Patrick sur Facebook aussi. Vous retrouvez cette émission et d'autres sur frenchspin.fr et vous pouvez venir mettre vos commentaires sur l'épisode et par exemple sur les logos si vous ne les avez pas encore tous vus, vous pouvez venir les voir, ils vont comme je le disais arriver petit à petit, ces nouveaux logos avec cette couleur framboise un petit peu osée, un petit peu rentre dedans que moi j'aime bien. J'espère qu'elle vous plaira aussi même si elle est différente, on va dire. Et puis bien sûr, j'en ai assez parlé, le Patreon qui permet de financer cette émission qui vous accompagne depuis, j'espère, longtemps et j'espère pour longtemps, patreon.com/rdvtech, ça se fait en 2 minutes, c'est rapide, facile et ça vous apporte bonheur et fierté, j'en suis convaincu. Donc, alors on refait le slogan, pour que demain soit aujourd'hui, merde, il faut un truc qui rime en i. Pour que demain soit aujourd'hui, soyez patriotes, c'est très joli. Non, ok, bon, on va juste dire allez-y. Allez-y! Pour que demain soit aujourd'hui, allez-y! Très bien. Bon, on vous remercie tous de nous avoir écoutés. On vous fait d'énormes bises à tous dans cette merveilleuse communauté des auditeurs du Rendez-vous Tech et des autres émissions. Et on vous donne rendez-vous comme toujours, depuis des années et pour des années, dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous!
C'est assez intéressant puisque j'ai eu cette discussion avec un groupe de...
Excuse-moi une seconde, il y a le chien qui m'a bavé dessus. Je vais aller... Jackson ! Excuse-moi, vas-y, continue, je me déplace. Okay.
Moi, entre-temps, je vais vous dire au revoir pour 2 semaines et je reviendrai bien sûr dans 2 semaines pour un autre épisode un petit peu plus classique du Rendez-vous Tech. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura distrait. Et je vous dis donc à dans 1 semaine et grosse bise. Ciao à tous. J'ai dit à dans 1 semaine ou à dans 2 semaines? Je crois que j'ai dit à dans 1 semaine, mais je suis vraiment trop con.